tousse, je tousse parce que je suis là, à Paris, avec vous, là, en studio. Alors que partout, encore ailleurs, dans le reste de la France, zone A, zone B, zone C, vacances programmées encore, souvenirs instagrammés instantanés, photographiés là, les pieds, doigts de pied en éventail, dans le beige des choses, le sable, le bonheur virtuel, prétendu. Regarde comme je vais bien péter des RMDR, lol à donf. On y va, on like, on est heureux pour toi, mais on s'en branle au fond parce que nous, ce qu'on aime, c'est nous. Nos souffrances à nous, pas tes joies à toi. C'est ça, nos vies. Et toi, tu nous envoies les chères têtes blondes qui skient heureuses avec déjà des casses parce qu'il faut faire gaffe aux chutes de pierre, aux chutes des choses. La chute n'est pas heureuse, mais pendant qu'on tombe, on vole encore. Tant que le sol ne s'est pas mis en relation avec notre face et que tout n'explose pas dans un fracas épouvantable et joyeux. Parce que le feu d'artifice est aussi ça, de la joie et de la douleur, des explosions, des bombes et de la vie. Les vacances A, B, C et le reste de l'alphabet qui trame, qui trime, qui rame, qui rime, qui essaye au moins. Et puis nous, tenant le gouvernail de la radio, du micro, on tient le bon bout, on tient à rester debout, on tient le matin à être avec toi comme un lien, un fil invisible, les voix, les oreilles et tout ça, la ronde des choses, la ronde des choses. Bonnes vacances à ceux qui n'en ont pas. À nous, à toi, quelle importance. Les vacances, c'est l'ennui, c'est la mer toujours recommencée, c'est la mort annoncée. Le travail, c'est la vie, le travail choisi, pas le travail subi. Le travail qu'on a la chance de prendre, comme une promesse, comme une annonce, comme un serment. Viens, viens travailler avec nous, viens être heureux, viens vivre. Allez, bonne journée.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Oui, on fait notre pain. Édouard Baird et tous les amis sont là, hein,
on est tous là.
Du matin. On est avec Atmen Khelif qui est là, qui est contre-ténor à l'Opéra d'Albi.
Oui, il était viré.
C'est notre destin. Il y a Tito qui nous a fait le nouveau générique. C'est vous, Tito, qui fait l'Aïe Lolaï?
Ouais, c'est moi, j'ai été viré aussi. Ouais.
Comment on fait l'Aïe Lolaï?
Comme ça, l'Aïe Lolaï.
Ah oui, c'est ça. Armel qui est là, qui nous réalise cette émission. Vous allez entendre Thierry Paret de retour de Sport d'hiver et qui va nous dire les informations. Eugénie qui organisait tout. Christophe Méné, Thomas Baumgartner.
Bonjour.
Une ambiance un peu. Pourquoi c'est pas plus féminin?
Oui,
ben
oui,
je comprends pas. Le journal de Thierry Paret, il est 7h03.
Bonjour à tous. Hein?
Bonjour.
Mais est-ce que vous incluez l'auditeur dans le
tous? Bien sûr, bonjour à tous et à toutes d'ailleurs.
Bien sûr, vous rendez compte qu'on parle peut-être trop fort pour des gens qui sont encore au
lit. C'est vrai. Après Bobigny, samedi, c'est à Argenteuil, dans le Val d'Oise, que de violents incidents se sont produits hier soir. La police a procédé à une dizaine d'interpellations. Vers 17h, une cinquantaine de jeunes se sont rassemblés dans le quartier du Val d'Argent Nord, autour de la dalle. Ils répondaient à un appel diffusé sur Facebook, incitant à reproduire les violences de 2005. Il y a eu aussi des incidents du côté de Drancy, en Seine-Saint-Denis. En pleine crise diplomatique entre Mexico et Washington, des milliers de Mexicains ont manifesté contre le président américain Donald Trump et son projet de construire un mur à la frontière, agitant des drapeaux mexicains, vêtus pour certains de blanc. Les manifestants ont commencé à envahir la principale avenue de la capitale mexicaine à l'appel d'entreprises, d'organisations civiles, d'universités. Le Mexique, on le respecte, monsieur Trump, c'est ce qu'on pouvait lire sur une immense pancarte en tête de cortège. C'est une différence avec la France. La Suisse organise régulièrement des week-ends de référendums. Et ce week-end en était un. Les Suisses étaient appelés aux urnes pour entériner ou repousser plusieurs propositions. Ainsi, ils ont par exemple accepté à plus de 60% de simplifier la naturalisation des petits-enfants d'immigrés, renvoyant dans les cordes la droite populiste et ses propos anti-musulmans qui n'ont donc pas convaincu. En Espagne, Pablo Iglesias renforce sa mainmise sur Podemos. Le professeur de sciences politiques de 38 ans, favorable à l'alliance avec les écolos communistes, a été réélu secrétaire général de la formation de gauche par les militants avec plus de 89% des suffrages. Certaines élections présidentielles se déroulent sans la moindre surprise. Tel a été le cas en Allemagne hier où Frank-Walter Steinmeier a été élu dès le premier tour du scrutin par 931 voix sur 1260 grands électeurs. Il a été élu 12e président de la République fédérale, ex-ministre social-démocrate des Affaires étrangères. Il va succéder officiellement le 18 mars à Joachim Gauck.
J'ai vu sa photo au journal, là. Il a l'air sympathique, il sourit. Alors, il a dit cette phrase: « Je suis l'anti-Trump ». Vaste programme.
Ah, magnifique.
pas facile pour François Fillon hein, de faire campagne des opposants.
Ah non, c'est pas facile.
Ah, dis donc. T'as profité que je disais conneries pour le journal pour le faire aussi, toi.
Des opposants l'attendent hein, dans quasiment tous ses déplacements et ce fut le cas encore ce week-end à La Réunion. Alors malgré tout, lors d'un meeting à Saint-Pierre, le candidat de la droite a réaffirmé devant plusieurs milliers de partisans qu'il se battrait jusqu'au bout. Je suis attaqué 24-24, mais je reçois aussi d'innombrables soutiens. Je me battrai jusqu'au bout car mon programme est le seul capable de relancer la France.
Il n'a pas dit je suis attaqué 24-24.
Non, il a dit, c'est vrai.
Il n'a pas dit H24. Je suis attaqué H24, jour 7, en ce moment, avec l'équipe de nuit qui a les 3-8, je l'ai
fait. On l'a vu danser, manger des petits boudins créoles. Il avait la patate. Hein.
Il a, ouais, c'était ça, ah,
il avait
dansé, dans ses messes
au
programme.
Il a dansé, il avait la chemise en sueur.
Il avait un peu chaud.
Il a mangé au cabamouin, nettoyé, balayé, astiqué, casa, toujours pimpant, il a dit à un moment donné.
Oui, bien sûr. Et il a dit effectivement 24 heures sur 24, très précisément. La France va recruter une nouvelle génération d'espions d'ici la fin 2019. La DGSE va bénéficier de 600 nouvelles recrues, analystes, linguistes, ingénieurs, enfin bref, de nombreux profils sont recherchés. Ma principale contribution à la musique aura été d'introduire la rythmique dans le registre vocal, ainsi s'exprimait Al Jarreau, légendaire chanteur de jazz américain. J'ai 76 ans, vingtaine d'albums au compteur. Il est décédé hier, quelques heures avant la 59e cérémonie des Grammy Awards à Los Angeles, cérémonie qui lui a valu d'être récompensé à 7 reprises hein, durant sa longue carrière. Les Grammy Awards, justement, on y vient. Carton plein pour Adele, avec entre autres le Grammy de la chanson de l'année pour sa ballade Hello, et puis celui du meilleur album de l'année pour son disque 25. La diva britannique a été donc la grande gagnante de cette 59e cérémonie des Grammy Awards.
J'en avais eu des Grammy Awards, c'est toujours très émouvant. Non. J'embrouillais quelqu'un d'autre, pardon. C'était tout ?
Il y avait un petit mot de sport, mais on dira tout à l'heure, c'est pas très grave. Marseille a perdu à Nantes, par exemple, 3-2 hier soir, en clôture de la 25e journée. Et puis l'équipe de France a battu l'Écosse au rugby 22-16.
Vous ne la faites pas souvent la liaison
des 6 nations.
3-2.
Ah bon, moi
d'habitude vous dites plus 3-2, il me semble.
Ah, c'est possible.
Il y a Fourcade, le biathlon dont on parlait la dernière fois, qui a gagné.
On m'a beaucoup reproché cette liaison depuis hier.
Mais qui beaucoup
a beaucoup
reproché.
Ah non, mais beaucoup, un nombre incalculable de personnes de mon entourage.
Un courrier et un mail anonyme.
Ah non, un nombre incalculable de personnes de mon entourage. Non, mais tu dis depuis hier, ça veut rien dire.
Comment c'était ? Vous avez eu des likes récemment ? Sur des posts ?
Non.
C'est important, hein ?
Est-ce qu'on vous a reconnu sur les pistes de ski ?
Vous étiez au ski, Thierry Paret ?
Ouais.
On n'a pas dit c'est Thierry Paret,
C'est pas totalement faux. Mais je ne veux pas tout vous raconter.
Quand vous demandez votre forfait 3 ballons, on dit
Vous savez, vous remuez un couteau dans la plaie parce que si vous croyez que c'est sympa de prendre des vacances, il faudrait qu'on y prenne du plaisir. Quand il neige, quand il fait froid. Moi, je souhaite ça. Le prix du forfait, je souhaite ça à personne.
Tu t'en es payé la bonne tranche de rigolade.
On y va, et ça y est, elle est sur la raquette. Il a triplé de volume. On appelle des gens génies là ou pas ? Parce qu'il faut qu'on réagisse sur plein de choses. Là, il y a les fruits et légumes qui augmentent. On a les loups. On va parler d'Al Jarreau, il y a Dominique Régnier va venir, on va voir Florence Oumnas.
C'est plein, c'est fourni, c'est chargé, je peux pas,
Tito, pas de météo là ?
Si, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?
On va accueillir tout le bonheur du monde, mais on va la cuire.
C'est joli, c'est joli.
On peut la cuire quand même.
Qu'est-ce qu'on fait Eugénie là ?
Une petite météo,
c'est rare qu'on la fasse à cette heure.
Ah, ça j'aime bien.
Parce qu'il fait beaucoup plus chaud en ce moment, la preuve en musique.
Dans le sud-ouest, du côté de Brest jusqu'à Perpignan, il pleut. Ailleurs, il fera un temps couvert, un petit peu nuageux, avec quelque part du soleil. Et accrochez-vous, parce que maintenant, la vraie météo avec les vraies températures au bon endroit où il faut. À Agen, entre 10 et 15. À Laval, moins 2 et 13. À Melun, 3 et 12. Montpellier, 11 et 14. Pau, 7 et 15. À Poitiers, 9 et 17. À Vienne, 7 et 16. Saint-Étienne, 6 et 14. Tours, 9 et 16. Et pour terminer, Brest, entre 8 et 13.
Merci Tito.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Qu'est-ce que je dois te dire ? Mais qu'est-ce que je fais là ?
Réveil se passe bien, comme ça, on émerge bien. Alors, beaucoup de choses se sont passées. Le lundi, c'est très riche parce qu'on a tout le week-end à commenter. Qu'est-ce qui vous a frappé ce week-end ? Atman, vous regardez beaucoup les prix.
Moi, j'adore les prix.
Les Emmy, Grammy, BAFTA, Tefal.
C'est le mois des prix, là, en ce moment. Oui. On brade sur les prix et les récompenses. Et hier soir, il y avait la cérémonie des British Academy Awards.
Du film anglais, les prix du film anglais.
Les prix des films anglais. Et on s'est rendu compte que les plus grands acteurs américains étaient anglais. C'était magnifique. Il y avait vraiment une salle incroyable. Bon, c'est encore La La Land qui a gagné. Il y a eu plein de discours incroyables. C'est surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est le décorum. C'était dans le Royal Albert Hall. Magnifique, tout en noir, comme ça on aurait dû une cérémonie comme dans Eyes Wide Shut ou les Illuminati. Il y avait pas.
Ah, vous êtes Illuminati, vous y allez aux réunions, j'avais pas. D'accord.
Dans le coach, je peux pas le dire.
Oui, pardon. Oui.
Et à un moment donné, ce qui était incroyable, c'est que il y avait pas une vanne, il y avait pas quelqu'un qui est venu faire des claquettes ou un numéro à la con, tout ça, tout était très sérieux. C'était le prince Charles avec la Middleton à côté de lui qui était le maître de cérémonie. Eux, ils ont ça, on a failli avoir Polanski, mais eux, ils avaient comment s'appelle ce type-là, c'était magnifique. Le vrai moment pour moi de gloire, c'était amusant, c'était Mel Brooks qui a reçu un prix. Et il a dit, je suis un peu fauché, mais je vous jure que ce prix ne sera pas sur eBay. Donc ça m'a beaucoup fait rire.
Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait depuis Mel Brooks, non ?
Il ne fait plus du tout, il est très très vieillissant. Il perdait un peu sa tête, mais tout le monde rigolait.
Je l'ai croisé dans le train, Mel Brooks.
Ah tiens,
j'ai les anecdotes qui n'ont aucun le mec qui veut être dans la photo, absolument. Thierry, vous, qu'est-ce qui
Mel
vous a touché ?
Vous l'avez croisé dans le train.
Non mais c'est vrai.
Bah, en tout cas, si tu croises dans le train Alejandro Toledo, tu peux le dire. À la police notamment, Alejandro Toledo, c'est qui d'abord ? C'est l'ancien président du Pérou, 2001-2006. Et il est poursuivi au Pérou pour corruption. Il aurait touché 20 millions de dollars d'une entreprise de BTP brésilienne, la plus grosse, Odebrecht, pour avoir... cette entreprise, elle a réussi à avoir le marché public d'une route qui relie le Pérou au Brésil, un truc hyper important. Et ce gars, il est en fuite, donc depuis un paquet de temps maintenant. Et donc là, il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui. On ne sait pas où il est. On sait qu'il est à l'étranger. Enfin, on ne sait pas où il est. Il est sans doute à l'étranger et peut-être même en France. Parce que sa femme a posté des photos sur Facebook et elle était en France. Donc
à quoi
avec
il
lui,
ressemble
sans doute, c'est un président.
Oui, je vois. Je crois que
j'ai croisé. Est-ce que tu l'as pas croisé
avec
dans le
Mel Brooks dans le train.
Oui,
bon.
Et Alessandro Toledo, figurez-vous. On ne sait pas où il est, mais ce matin, nous, sur 9 ans, on sait où il est. Le voici, Alessandro. Non, c'est bon, ça. Hein.
Vous êtes bon, Thierry.
On y a cru. Très bien.
Vous finirez dans un petit cirque à l'île de Léron.
Ça sera pas mal.
Attention, voilà le lion. Et c'est un enfant avec une petite tête de lion en plastique, parce qu'ils sont très fauchés, les cirques à l'île de Léron. Christophe Méné.
Oui, bah moi, je suis.
Très apprécié, Christophe Méné.
Oui.
Vous avez eu des likes et des posts.
Combien,
ah bon,
combien
et des smileys. Non, je sais pas, j'aime bien.
C'est un autre Christophe Méné. Non, moi, je suis bien embêté ce matin, parce qu'il y a une info, j'ai pas d'avis dessus. Voilà.
Si vous êtes français, vous avez un avis avant l'info.
Bah, oui, forcément, ça me met de mauvaise humeur, mais...
Vous êtes furieux déjà.
Oui,
Il y avait un titre du Gorafi qui disait « Déjà 2 Français sur 3 furieux contre le prochain président de la République, quel qu'il soit. »
Non, mais là, il parle de supprimer les feux tricolores.
Les feux de signalisation vont être supprimés.
Oui, voilà. Alors, ils ont fait un essai à Abbeville, dans la Somme.
Oui.
Et la mairie, donc, a décidé de se passer les feux tricolores. Ils disent, avant, il y avait des bouchons sur plusieurs centaines de mètres du temps où il y avait les feux. Et maintenant, il y a plus de fluidité dans la ville.
Et ça va être remplacé par quoi, alors ?
Par des ronds-points.
Le ronds-point.
Il paraît que ça marche à Philadelphie.
Le ronds-point.
Merci. C'est 300 000 euros pour la
des points de vue. Il y a des points de vue.
300 000 euros pour une commune.
J'ai lu cet article. Ah, oui. J'ai un point de vue. Au bout de l'article, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que quand on enlève les feux, les gens sont vachement plus vigilants. Qu'au début, ils sont perdus et après, ils regardent plus.
Voilà, ils roulent.
Responsabiliser le citoyen, c'est pas du tout la tendance actuelle.
Oui, mais justement, il y a Christine Stefanini, qui de 62 ans, qui est architecte à Crépy-en-Valois, et qui dit en appeler à la responsabilité de chacun. Là, je suis sceptique. Et ben moi, je suis plutôt d'accord.
Elle a cette voix-là.
On critique toujours les ronds-points.
C'est à Abbeville qu'on teste beaucoup de choses.
On critique toujours les ronds-points, mais il y a toujours des très belles choses dessus, des très belles statues.
Oh non.
C'est une façon d'aider l'art local, oui.
C'est vrai.
Marie-Mise, c'est quoi d'autre ?
Une tristesse, mais pas tant. C'est dans l'époque, le supplément du Monde le week-end, sur les suicides au Japon à cause du surménage. C'est un nom, tellement il y en a. Ça s'appelle le karoshi. Et il y en a eu tellement ces dernières années qu'ils commencent à prendre des mesures.
Ça fait 30 ans que j'entends ça.
Voilà, et bien cette fois, ça y est, après le suicide d'une femme de 24 ans, ils ont décidé, on va faire quelque chose contre. Et du coup, dans une des entreprises citées, eh bien, ceux qui travaillent tôt doivent revêtir un manteau de la honte. Et donc, j'imagine que ça marche hyper bien pour enrayer le suicide.
Je suis pas prêt de l'avoir.
Et il est en quoi,
il est en quoi,
je ne sais pas. C'est un grand manteau de la honte et ils doivent marcher avec dans les open space.
Alors, il est en quoi, ce manteau ? Il est en quoi ?
Je ne sais pas, Atmen, ça n'est pas du tout pas.
Mais alors, de soi-même, c'est-à-dire, on s'auto-flagelle, c'est-à-dire.
Je ne sais pas, je pense que peut-être, si on reste après 3 heures du matin, hop, on revêt le manteau de la honte et on doit se promener avec.
On va recycler les feux tricolores, comme ça, comme on s'appelle à Noël, tu passes, tu clignotes et penses que c'est toi.
C'est très joli.
Magnifique. Ils vont tout tester à Abbeville. Tout est testé à Abbeville.
Vous soyez rentré du lac d'Ourthe, vous étiez là. Vous en avez. C'est monté les idées là-haut.
Ouais, autrement, il y a les ronds-points tricolores aussi.
Thomas, non, on est avec notre ami Patrick Lebon qu'on a volé juste à côté.
Thierry Lebon.
Non, non, je choisis les prénoms des invités. C'est quand même incroyable de me reprendre. Pardon Thierry. Thierry, tu viens de laisser tomber un tout petit peu l'antenne de TSF Jazz pour nous.
Oui, je vais essayer de ne pas plomber votre émission.
Parce qu'Al Jarreau est mort.
Et puis Al Jarreau, c'est vraiment mon chanteur préféré. Donc voilà, Al Jarreau est décédé hier, il avait 76 ans. Bon, ça faisait déjà quelques jours qu'il avait été hospitalisé à Los Angeles. Il avait déclaré d'ailleurs qu'il arrêtait sa carrière pour épuisement. Et Al Jarreau, c'est quand même un artiste incroyable, une voix unique. On dit parfois que la voix est un instrument de musique. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec Al Jarreau, c'était ça, quoi. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois sur scène et c'était pas un chanteur avec des instrumentistes derrière. C'était un musicien parmi les musiciens. Cette façon de scatter, cette façon d'improviser. Une version incroyable de Blue Rondo à la Turque, par exemple, de Dave Brubeck qu'il arrivait à faire. Voilà. Faut hommage à Al Jarreau ce matin. Un immense chanteur, une voix incroyable.
Et aussi un homme qui était à la fois qui a fait le lien entre le jazz et la pop, ce qui est assez rare, et un grand improvisateur aussi.
Ouais, effectivement, en plus il y avait pas de case avec lui, quoi. Il mélangeait vraiment les genres. Et c'est vrai qu'il avait commencé par le jazz. Après, il était allé plutôt vers la pop, vers la variété, ce qu'on lui avait reproché, mais j'allais dire on
les
s'en
puristes
fout parce
partout,
que dès qu'il se mettait à chanter, un côté crooner aussi quand même dans la voix d'Al Jarreau avec des morceaux comme plein de
un
morceaux.
Showman incroyable aussi sur
showman
scène.
Incroyable.
Il a repris de la bossa nova aussi, beaucoup de bossa nova.
Mais tout, je crois
incroyable.
Que voilà,
Maskenada, sa version de Maskenada
avec Marcus Miller
voilà,
à la basse, incroyable.
Ouais,
et Summertime dans ce même album qui était un espèce de faux live là des années 90, c'était vraiment un grand bonhomme Al Jarreau.
On est en ligne avec Fred Guatti qui est le directeur de la publication de Jazz Magazine, vous confirmez tout ça?
Je ne suis pas directeur de la publication.
Ah,
arrêtez, parce que le directeur de la publication, c'est celui qui va en prison quand il y a un problème.
Ah bon, on verra plus tard alors.
Bon, vous avez le pigiste.
Non, moi, la direction. Bah, écoutez, je vous écoute, là, c'est passionnant, mais ai-je quelque chose à ajouter? Vous avez tout dit.
Bon, tant pis. Vous-même, vous l'avez vu sur scène?
Non, dites-nous, une anecdote personnelle, un concert auquel vous avez assisté qui vous a particulièrement touché, un souvenir?
C'est plus, alors, le souvenir, c'est plus, je voulais commencer par vous dire « Morning, Mr. Radio ».
Ah oui.
D'abord parce que c'est une chanson qui s'appelle « Morning » et qui m'a beaucoup touché parce que je l'ai découverte, tenez-vous bien, à la radio. Et Al Jarreau, au tout début des années 80, bien sûr, c'était un artiste de scène absolument extraordinaire, mais il a touché beaucoup, beaucoup de gens et un public jeune et assez ouvert et parfois un peu ignorant. Grâce au disque et grâce à la radio, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a su naviguer toute sa vie avec beaucoup d'élégance, de classe, de swing, entre presque toutes les musiques. Évidemment, le jazz, c'est sa culture, mais il a su flirter aussi avec la pop, la musique brésilienne, et sans jamais se fourvoyer. Toujours avec, je le disais il y a quelques secondes, élégance et beaucoup, beaucoup de classe.
Merci beaucoup Fred Guatti. Je crois que Al Jarreau aurait aimé que Patrick Lebon s'appelle en fait Thierry et que Fred Guatti, le directeur de la publication, soit en fait le rédacteur en chef de Jazz Magazine. Salut.
Mais je le suis aussi, je le crains. Je le suis aussi.
Salut. Al Jarreau.
Une reprise de Tech 5 par Al Jarreau. Donc c'était en 1976 ce morceau enregistré lors d'une émission télé allemande. Ça se trouve sur le net.
Vous voulez que j'explique que Tech 5, alors c'est une expression en jazz, c'est pour prendre 5 minutes de repos. Voilà, vous faites une session, vous faites des cuivres, tout ça et tout, vous arrêtez, et le chef d'orchestre dit souvent Tech 5, alors que la musique s'arrête, et puis voilà, ils vont se reposer.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
C'est où déjà, plus près de toi? Tu savais, non?
Jacques, souvent, est toujours à Lyon, je crois, Thomas, non?
Il est toujours à Lyon, absolument.
Oui, Lyonnais, ouais.
Alors, il se baladait à Villeurbanne vendredi dernier.
Parce que c'est juste à côté.
C'est-à-dire qu'il se balade dans la rue en bas de chez lui.
Oui, oui.
Donc l'aventure est vraiment en bas de chez soi.
Bah, il est même parfois au coin de la rue quand il pousse un tout petit peu.
Et je comprends ce que vous voulez dire.
Sous le sabot du cheval aussi.
Parce que ce n'est pas juste une image, c'est une réalité. Jack ? Allô, allô ?
Oui, allô ?
Alors, c'est pas la peine de m'engueuler.
Ah oui, dis donc.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais parce que j'entends rien, je suis à la gare Pardieu, il y a trop de monde.
Mais c'est pas notre faute.
Alors, la gare Pardieu, c'est l'une des deux gares TGV. Il y a Lyon-Perrache et Lyon-Pardieu, puis il y a aussi Lyon-Saint-Exupéry. On est sur trois gares TGV sur Lyon maintenant. Oui, mais enfin, le TGV s'y arrête. Lyon-Pardieu, vous êtes. Qu'est-ce qui se passe ce matin?
Il se passe que j'ai rencontré un collègue, on était en train de pédaler pour recharger les téléphones portables.
Il y a des...
Bonjour, bonjour, toute l'équipe, bonjour.
Ouais, on est, alors, monsieur, là, je sais pas, il va prendre le bus, il attend, il est en train de recharger tous les téléphones portables de la gare Pardieu.
Eh ben, je confirme, c'est bien ça. Depuis 5 heures, je suis là, ben, je profite pour pédaler.
Mais c'est-à-dire, vous ne pédalez pas que pour le vôtre, vous pédalez pour les autres ?
Non, je pédale pour moi, tout seul, il n'y a pas de monde, malheureusement.
Sauf qu'il y a 4 portables, et puis il y a quoi ? C'est une batterie de rechange ?
Une batterie de recharge, au cas où j'ai plus rien. C'est une batterie de secours.
Mais c'est-à-dire, monsieur, vous travaillez là-bas ou vous rendez service ?
Non, du tout, je ne travaille pas. Je vais à Lausanne, ben, je profite comme je dois attendre mon bus jusqu'à 8h du matin. Bon.
C'est le Lausanne de 8h là, qui arrive vers 11h15 à Lausanne ?
Non, il arrive à 12h20.
Qu'est-ce que vous allez faire à Lausanne aujourd'hui, monsieur ?
Bah, je profite, je vais voir la famille et puis récupérer une voiture.
Ah oui, il y a une voiture à Lausanne. Mais vous apportez des cadeaux ? Comment ça se passe ?
Bah là, pour l'instant, non, j'ai pas pris les cadeaux. Peut-être au retour,
il faudrait.
Pour ramener les chocolats.
Ouais. Mais la famille est à Lausanne ou à Lyon ?
À Lausanne. Là, c'est l'escale. J'ai fait l'escale, Flexibus.
Oui, Flexibus, je connais. Mais il faudrait faire les cadeaux aller et les cadeaux retour. Quand vous rentrez de Lausanne, vous pouvez évidemment rapporter des coucous, des chocolats, comme toujours. Mais quand vous quittez Lyon, peut-être, à l'ancienne, quelques produits lyonnais.
Oh, je sais pas, je verrai. Mais bon, là, c'est vrai, tous les magasins sont ouverts. Je vais voir si je peux ramener un petit de Lyon.
Je comprends l'idée. Vous êtes habillé comment, là, monsieur ?
Survêtement plus doudoune.
On est sur un survêt un peu de tous les jours ou le survêt du dimanche, un peu pour faire fête, pour que la famille te dise « Ah, il a quand même un beau survêt ».
De tous les jours. De tous les jours.
Mais non, mais vous allez vous changer. Est-ce que parfois vous vous changez dans le bus très discrètement ?
Oh non.
Vous ne voulez pas faire un effet en arrivant à la famille à Lausanne, le costard avec des paillettes ?
C'est vrai, j'ai mon jean dans mon sac à dos, mais
Moi, je le mettrai.
C'est pour les retours. L'aller, c'est jogging, et retour, c'est jean.
Mais pourquoi vous voulez épater les gens à Lyon avec les cadeaux et le truc, et à Lausanne, vous vous en foutez deux, pas de cadeaux et un jogging ? Je comprends pas, moi.
Mais parce que c'était pas prévu.
Non, moi, je vous comprends plus. Moi, je vous aime beaucoup, mais il y a un moment dans nos vies, je vous ai plus du tout compris. Ça a commencé l'année dernière.
Ah ouais ?
Est-ce que vous faites du sport, là, grâce au pédalage qui remplit les portables ?
Ça
vous...
Il est parti tout chousse, là.
Eh ben oui, j'ai entendu l'annonce du train.
Voilà.
Allez, bon voyage pour Lausanne. Rapportez-nous des photos Instagram.
Grand merci, avec plaisir. Pourquoi pas si je croise
Instagram. Jacques. Et gros bisous à la famille.
Merci, pareillement à toute l'équipe.
Salut.
Je crois que c'est un
vous l'avez énervé. Vous l'avez énervé un peu.
Non, pas du tout. Alors,
Oui. C'est le café. C'est la cuillère. C'est la cuillère qui est restée dans la bouche.
Le journal de Thierry Paré, tout de suite, Jacques. Pardon.
Personne ne se fait de cadeaux ici.
Truc horrible.
Après Bobigny, samedi, c'est à Argenteuil, dans le Val d'Oise, que de violents incidents se sont produits hier soir. La police a procédé à une dizaine d'interpellations. Vers 17h, une cinquantaine de jeunes se sont rassemblés dans le quartier du Val d'Argent Nord. Là, ils répondaient à un appel diffusé sur Facebook, incitant à reproduire les violences de 2005. Il y a eu aussi des incidents du côté de Drancy, en Seine-Saint-Denis. En pleine crise diplomatique entre Mexico et Washington, des milliers de Mexicains ont manifesté contre Donald Trump hier et son projet de construire un mur à la frontière. Le Mexique, on le respecte. Monsieur Trump, pouvait-on lire sur une immense pancarte en tête de cortège. C'est une différence avec la France. La Suisse organise régulièrement des week-ends de référendum et ce week-end en était un. Les Suisses étaient appelés aux urnes pour entériner ou repousser plusieurs propositions. Ainsi, ils ont par exemple accepté, à plus de 60%, de simplifier la nature des petits-enfants d'immigrés, renvoyant donc dans les cordes la droite populiste et ses propos anti-musulmans. En Espagne, Pablo Iglesias renforce sa mainmise sur Podemos. Le professeur de sciences politiques de 38 ans a été réélu secrétaire général de la formation de gauche par les militants avec plus de 89% des suffrages. Certaines élections présidentielles se déroulent sans la moindre surprise. Tel a été le cas hier en Allemagne, où Frank-Walter Steinmeier a été élu dès le premier tour du scrutin. 12e président de la République fédérale. Pas facile pour François Fillon de faire campagne. Des opposants l'attendent dans quasiment tous ses déplacements et ce fut le cas encore ce week-end à La Réunion. Malgré tout, lors d'un meeting à Saint-Pierre, le candidat de la droite a réaffirmé devant plusieurs milliers de partisans qu'il se battrait jusqu'au bout. La France va recruter une nouvelle génération d'espions d'ici la fin 2019. La DGSE va bénéficier de 600 nouvelles recrues. Analystes, linguistes, ingénieurs, enfin bref, il y en aura pour tout le monde.
Comment ça se passe ? C'est discret quand on engage un espion ? C'est allusif, on cherche quelqu'un ?
C'est plutôt secret. Mais si c'est les musiciens, on est là, avec Atmen, on y va tous les deux.
Il y a Christophe Pédier qui a déposé un CV, il paraît.
Oui.
Comment on fait si on le dit sans le dire ? C'est très compliqué votre histoire. Pourquoi vous avez pris le micro du journal, Christophe ?
Déjà parce que j'ai envie de parler.
Mais j'ai rien à dire, mais j'ai envie de parler. Donc je
tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils parlent, les gens n'écoutent plus.
Oui. Et c'est mon cas.
Voilà.
Lui ne parlera plus, Al Jarreau, hein, décédé à l'âge de 76 ans. Ma principale contribution à la musique aura été d'introduire la rythmique dans le registre vocal. Il a reçu 7 récompenses, il a reçu 7 Grammy Awards durant sa carrière. Il a une vingtaine d'albums à son actif. Et justement, puisqu'on parle des Grammy Awards, il y avait la 59e cérémonie cette nuit. Et carton plein pour Adèle, hein, avec entre autres le Grammy de la chanson de l'année pour sa ballade Hello, et puis celui du meilleur album de l'année pour son disque 25. La diva britannique est la grande gagnante de cette 59e cérémonie. Elle devance Beyoncé notamment. Il y avait aussi Drake, hein, comme concurrent.
L'émission est très produite, là. Armel, vous avez envoyé le morceau d'Adèle au moment où on parlait.
C'est incroyable.
On a l'impression d'être sur la bande FM. C'est d'un luxe. Et c'est pour le même prix ou ça coûte de l'argent?
Non, il y a un petit supplément.
Ah, il y a un supplément. C'est comme si on prend de la chantilly. Ah, oui, enfin bon. Ouais,
on met la cerise au-dessus. Ouais.
Il y a des chercheurs australiens qui étaient en train de travailler sur une cartographie au large de l'Australie, sur la grande barrière de corail. Oui. Et ils ont repéré, ce qui, de façon tout à fait fortuite, un glissement de terrain qui se serait produit il y a 300 000 ans et qui aurait provoqué un tsunami gigantesque, des vagues de 27 mètres de haut. C'est une info, je vous la donne, c'est comme ça, c'est cadeau.
C'est cadeau, ça.
C'est le petit plus.
C'est le petit plus, oui.
Du football, hier soir, avec la fin de la 25e journée, Nice n'a pu faire que match nul sur le terrain de Rennes, 2-2. Marseille a perdu à Nantes 3-2. Et le dernier match, c'est Saint-Etienne qui a battu Lorient 4-0. Voilà, c'est tout. Et puis en rugby, tournoi destination, la France a battu l'Écosse hier au Stade de France sur le score de 22-16.
C'est bien le c'est tout. Il y a une façon de... Vous avez dit sur Trump au début, là?
Qu'il y a eu une manif hier de grosse manif. Alors,
Florence
Oumenas,
venez nous voir. Il y a Florence Oumenas qui vient d'arriver. Elle m'a dit, après une gorgée de café, je veux bien parler. Et la gorgée était bu. On ne va pas dire du mal de Trump toute l'année. Il faut trouver autre chose.
Bah, c'est vous qui avez donné le ton. Hein.
Mais non, moi personnellement.
Si, c'est vous. Je vous ai vu, vous me faisiez des signes en arrivant. Dites un truc sur Trump.
Non, mais c'est-à-dire que moi, je donne du crédit. Je donne du crédit à la nouveauté. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas ce qu'il va vous... On peut pas. Il n'y a pas une autre façon de parler de Trump que de commencer par l'indignation tout de suite.
Certainement si. Certainement si. On peut peut-être... Qu'est-ce qui s'est déjà passé? On est
en parlant de sa femme, alors.
Non,
tout de suite, alors. Voilà. C'est moche.
Ça, vraiment, c'est...
Traitez-la d'attaché parlementaire.
Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'il y a une chose, par exemple... Est-ce qu'il y a une chose qui a intéressé les gens dans ces mesures? Il n'y en a pas une? Tout à coup, les gens se sont dit, tiens, c'est intéressant.
Vous la connaissez peut-être?
Le mec essaie de dire du bien de Trump à 8 heures.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous cherchez un visa pour les États-Unis?
Bon, allez, on dira
c'est ça, mais je le sais, vous y allez à Pâques, vous me l'avez dit.
Alors, à 8 heures, on se retrouve juste après pour la rubrique Hitler, pourquoi pas, avec un énorme débat sur l'Allemagne. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. Nova, plus près de toi.
7h, 9h.
Ça sent le café, la tartine.
Alors, Florence, vous voulez bien avoir un nouveau statut de l'émission? C'est le grand témoin de l'émission du matin.
Témoin de quoi?
De ce qui se passe. Donc, vous intervenez, t'entends, vous donnez votre avis.
Bon, allez, on peut faire comme ça. On va essayer. Voilà, surtout sur les loups, j'ai plein de trucs à dire.
Alors, justement, on va parler des loups. Thomas Baumgartner.
C'est un lancement, Edouard. Oui, l'Observatoire des loups a annoncé en décembre qu'on avait peut-être vu des loups en Essonne, en Seine-et-Marne, dans les Yvelines. J'entends quelque chose,
hein? Un très bon loup.
Ah oui, voilà.
Ah oui, c'est Tito qui interprète le loup comme très peu de gens.
Et ce week-end, on a signalé des loups, 5 loups près des pistes de ski de la Drôme dans le Vercors. On les aurait vus, voilà. Et en fait, chaque fois qu'on évoque les loups, il y a une forme de mythologie qui accompagne cette présence. On voit une forme au loin dans la brume. Il y a une peur archaïque qui arrive. Il se trouve qu'on est avec Jean-Philippe Paul qui travaille pour la revue Salamandre.net, une revue d'histoire naturelle qui consacre son dossier du mois de février aux loups, justement. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour Jean-Philippe Paul.
Bonjour.
Oui, bonjour Jean-Philippe.
Il y a vraiment toujours ça, une forme de rumeur. Le loup, c'est d'abord une rumeur. C'est ça qui est étonnant.
Le loup, c'est une rumeur, ouais. C'est un fantasme absolu dans les forêts de France depuis des siècles. Et, c'est de la passion. La passion, soit contre le loup, soit pour le loup. Il n'y a pas de juste milieu.
On crie au loup, quelqu'un aurait vu un loup, on aurait entendu parler d'un loup, le loup va venir te chercher, le loup va te manger. Alors, on en est où aujourd'hui des loups en France?
Y a beaucoup de jeunes loups en France. tout le monde crie au loup. Il y a plein d'expressions sur le loup qui peuvent s'appliquer à l'actualité tous les jours, ça c'est sûr. Alors, on en est où le loup en France? Il y en a environ 300. Voilà, 300 loups, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
Ils sont où?
Je vous laisse juger.
Alors, si c'est, ça dépend. Si c'est chez moi, c'est beaucoup. C'est dans un appartement parisien. Mais sur l'étendue de la France, ça, ils sont concentrés où? Ils sont dans les montagnes, dans les Pyrénées? Ils sont où?
Ouais, alors ils sont arrivés par les Alpes il y a 25 ans, par l'Italie. Donc, ils ont d'abord colonisé les Alpes. Et c'est surtout là qu'ils sont encore aujourd'hui. Ils ont du mal à aller plus loin que les Alpes. Malgré tout, ils ont atteint la Champagne-Ardenne. Donc, c'est là que les Parisiens commencent à avoir peur. Et un petit peu donc la Lozère, les Pyrénées, les Vosges. Voilà, globalement, on en est là.
Et le loup avait disparu complètement du territoire, non?
Il avait disparu. Après, voilà, la rumeur, elle n'avait pas disparu. Donc, si on regarde vraiment les infos officielles, il est revenu en 92. Si on écoute les rumeurs, il n'a jamais totalement disparu. Il y en a toujours un ou deux, probablement qu'il venait d'Italie de temps en temps, parce que le loup, il fait beaucoup de kilomètres, il prospecte. Les jeunes loups, voilà, ils font des centaines de kilomètres et probablement qu'il y a toujours eu un loup de temps en temps en France. Mais donc, globalement, il a disparu au milieu du siècle.
Il y a plus de peur que de loups, vous dites. Mais on en est où de ce débat entre les bergers qui trouvent qu'on ne devrait pas réintroduire le loup, les écolos pur jus qui trouvent qu'au contraire... Est-ce que ça se passe comment dans les montagnes en ce moment?
Dans la salle à Amponette, vous dites que la question est dépassée, le pour ou le contre.
Voilà, on n'avait pas envie de traiter cette question parce qu'elle est insoluble. Alors on en est où? Bah, on en est toujours au même endroit. Les contre sont toujours aussi contre, les pour sont toujours aussi pour. Et en fait, bon, comme vous le savez, la société est pas mal basée sur la peur dans ce moment, que ce soit la vague de froid, les particules, Trump, puisque vous en parliez, les virus, les migrants, les loups, tout est basé sur la peur. Et le loup, par rapport à toutes les peurs qu'on peut évoquer en ce moment, elle se solutionne assez facilement avec un coup de carabine, donc elle est bien pratique. Donc je pense qu'il tombe à point et il réveille une peur qui est ancestrale. De toute façon, le loup, ça a toujours été, il a toujours été au bout du fusil pour l'homme, ou au bout de l'arc, ou au bout du poison. Et donc ça, j'ai l'impression que c'est insoluble et on n'a pas voulu aborder le dossier, nous, sous cet angle. Pour ou contre, la question est dépassée. Voilà, il y a 300 loups pour 65 millions de Français. À l'époque où le loup posait problème, il y avait probablement des dizaines de milliers de loups pour 20 millions de Français. Donc voilà, si on fait un calcul rapide, aujourd'hui, il y a un loup pour environ 220 000 habitants. Donc ça va, je pense.
Alors, vous dans ce dossier de la salamandre, vous, Jean-Philippe Paul, vous, il y a une fiction à l'intérieur de ce dossier-là. Mm-hmm. Vous racontez comment un loup arrive aux abords de Paris en 2026. C'est pour expliquer quoi, en fait? C'est le mode de déplacement du loup? C'est la possibilité de se rapprocher de la ville? C'est le changement de la peur, justement? Le loup a peur de l'homme? Est-ce que c'est une chose qui peut changer?
C'est exactement ça. C'est une fiction, bon, c'est sûr, symbolique, un petit peu attractive avec le choix de Paris, mais globalement, c'est basé sur des faits réels, comme on dit, c'est-à-dire que le loup, il peut faire 500 km en quelques jours quand il quitte sa meute d'origine pour trouver un nouveau territoire. Dans ce cas-là, il peut, c'est ce qu'il a fait, atteindre les Vosges, la Lorraine, ensuite la Champagne-Ardenne. Ça a été démontré par leur analyse génétique qu'ils arrivaient bien des Alpes et qu'ils pouvaient atteindre sans problème ces régions du nord-est de la France. En Champagne-Ardenne, aujourd'hui, on n'est pas très loin d'Île-de-France. Les forêts d'Île-de-France sont encore parfois assez vastes, avec des cerfs, des chevreuils, enfin tout ce que le loup recherche. Et puis ensuite, les exemples ailleurs en Europe ou dans le monde montrent que le loup et la ville, c'est pas totalement antinomique. Il peut très bien être très discret dans le milieu urbain, vivre de déchets, etc. Donc, on est parti sur cette fiction pour montrer que le loup, il peut en une dizaine d'années progresser beaucoup si on le laisse faire. Après, voilà, la fiction ne prenait pas en compte les décisions de l'État sur l'éradication ou non du loup en dehors des Alpes. Mais si on le laisse faire, les grandes forêts d'Île-de-France peuvent accueillir quelques loups.
Et puis surtout que les loups trouvent qu'il y a trop d'hommes. Il y a un débat entre loups qui trouvent qu'il y a beaucoup. La réintroduction de l'être humain dans la nature n'est pas bonne. Alors, il y a un autre problème, vous dites, qui est plus important, c'est les chiens errants. Est-ce qu'il y a beaucoup de chiens errants? Est-ce que c'est plus inquiétant que les loups?
Bon, alors là, en termes de nombre, par rapport aux chiffres que je citais tout à l'heure, un loup pour 220 000 habitants en France, là, pour le chien, c'est clair qu'on est plus dans un rapport de force à peu près équivalent. Et tout le monde sait que chaque année, il y a des chiens errants ou non, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus dangereux pour les enfants et pour par accident que le loup, pour l'instant, statistiquement, sur des siècles. Donc le chien errant, oui, puis sur les moutons, parce que je vais quand même en parler deux secondes, je suis pas spécialiste de l'élevage, je prendrai pas parti ici, simplement... le problème de l'élevage des moutons, oui, il y a le chien errant, il y a la macroéconomie, il y a le mouton néo-zélandais, il y a tout ce qu'on veut, et le loup, voilà. Bon. Si je dis que c'est un bouc émissaire, c'est un peu un lieu commun, mais je le dis quand même.
sortir le loup de la rumeur. Voilà, c'est ce que vous faites dans cette revue, ce dossier du mois de février de La Salamandre, Jean-Philippe Paul. Et si on veut lire des extraits ou la totalité de ce dossier, c'est sur salamandre.net. Merci beaucoup.
Merci Jean-Philippe Paul. Nous allons recontextualiser cette histoire. Le loup est-il le symbole? De quoi le loup est-il le nom grâce à Serge Reggiani?
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit... Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfert, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana... Pour eux, c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups.
Les loups sont entrés dans Paris.
Soit par ici, soit par Ivry.
Les loups sont entrés.
Les loups étaient loin de Paris.
Mais Atmen, ne attendez la chanson. Quand vous faites du karaoké sur Nova, essayez d'être au moins dans les paroles plutôt que de chanter le deuxième couplet pendant le premier. Alors on ne le met pas en entier parce que vous pouvez trouver la chanson de Serge Reggiani. Alors on fait une nouvelle rubrique. Annoncez-la à la trompette, c'est l'avis de Florence Omnas.
Alors bonjour. Alors,
non, la trompette. Florence, dans votre carrière de grand reporter, avez-vous été en montagne? Avez-vous été à la recherche d'animaux sauvages déjà?
Non.
Merci. Décidément. Il vous arrive de marcher seul quand vous partez dans des pays lointains, de marcher seul la nuit, d'avoir des rendez-vous étranges?
Ah, bien sûr, heureusement. Sinon, c'est quel fiasco. Mais je ne suis jamais tombée sur des animaux. Mais,
ou ça, par exemple, si je vous dis, est-ce que vous êtes allée dans le désert? Vous êtes en dehors des villes? Où est-ce que vous êtes retrouvée parfois?
Je suis allée dans le désert. Mais c'est surtout... si vous voulez, le moment, un des moments les plus étonnants, enfin étonnants, ce n'est pas le cas, c'est toujours les passages de frontières interdits. Parce qu'on risque toujours un peu quelque chose et on se dit qu'il faut y aller, qu'il faut la traverser. Et vous savez, vous êtes comme ça, en général allongé dans un genre de feuillage. Je me rappelle une traversée de la frontière syrienne qui était comme ça, entre la Turquie et la Syrie. Et on était allongé dans l'herbe avec un photographe et on attendait. On se dit, quand est-ce que c'est le moment? Et on se dit, bon, allons-y. Alors, on était en plein jour, c'était pas la nuit. Bon, vous êtes déçus, je m'en rends compte.
Non, non.
Et on était allongé dans l'herbe et on se dit, là, voilà, ça, c'est vraiment le bon moment. Donc, ça nous semblait ça. On se lève, on marche. Et à ce moment-là, vous savez, vous avez toujours l'impression que le bon moment, c'est celui où il y a un peu de bruit autour, qu'il y a des voitures qui passent, etc. Et comme de bien entendu, tout s'arrête. Et il n'y a plus un bruit et on est seul au milieu d'une plaine, d'un champ d'oliviers en l'occurrence. Et on marche et on se dit là, c'est pas possible, il y a quelqu'un qui va nous arrêter. Évidemment, vous en doutez, en Syrie, tout le monde a les cheveux plutôt noirs et pas nous. Et donc on se dit, on ne va jamais y arriver. On marchait en sifflotant, vous savez, du genre, ben non, pas du tout, on passait par là et on est arrivé au bout.
C'était un champ, c'était une zone surveillée ou c'était...
C'est une zone surveillée, oui. Vous savez, c'est ces zones frontalières entourées de murs... assez suffisamment loin pour que vous disiez c'est un bon endroit pour passer, mais suffisamment près pour que vous disiez c'est quand même pas non plus idéal.
Donc et si on vous arrêtait, vous aviez des papiers, vous aviez quoi?
Bah vous avez votre passeport, mais évidemment sait, oui. ça n'est pas l'important.
Et même des frontières où tout à coup on remet son passeport, on sent que tout peut déraper à chaque instant.
Ah bah si vous voulez, dans des situations de confusion d'état ou de violence, c'est évidemment ça qui se passe, c'est-à-dire que tout ce qui est les normes, tout à coup, volent en éclats. Et de façon étrange, c'est ce qu'aiment les gens, j'allais dire, qui aiment la guerre. C'est-à-dire que la vie habituelle, la vie normale, la vie qui peut peser parfois, tout à coup, n'est plus là. Quoi. Donc, vous roulez, il n'y a plus de feu rouge, vous parlez aux gens, il n'y a plus de rapport humain encadré, j'allais dire. Et donc, les gens qui aiment les situations de violence... apprécient ça. C'est-à-dire que...
Il faut inventer, quoi. Il faut trouver...
Il faut inventer ou il faut faire une relation du plus fort. Donc, il y a des gens... Et ça, c'est quelque chose d'étonnant quand vous voyez ces situations-là. des gens que vous n'aviez pas du tout pris en compte, tout à coup se révèlent extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont les personnalités se révèlent dans ces situations-là. Et qui tout à coup voilà, deviennent celui qui organise le quartier, en bien d'ailleurs ou en mal. Donc c'est vraiment très particulier. C'est une autre vie qui commence où les repères n'existent plus.
Et est-ce qu'on sent, je sais pas, dans l'œil, de tout à coup dans l'attention, à un moment on se dit, ah là ça peut basculer, là, cette seconde-là, si je réponds pas tout de suite la bonne chose, si j'ai pas le bon regard, ça bascule.
Ah oui, ça c'est sûr. Ça arrive assez souvent à des endroits de checkpoint ou des endroits comme ça, où là tout à coup vous voyez devant vous quelqu'un. Vous dites, vous le regardez, vous voyez que les yeux sont un peu rouges, c'est-à-dire qu'il a peu dormi, il a probablement parfois un peu bu, suivant les endroits. Et on vous pose une question et vous dites, là, j'ai un... Vous savez, c'est comme ces situations mythologiques. Vous avez intérêt à trouver la bonne réponse.
Parce que si... ouais. Le sphinx.
Le sphinx est là et vous n'avez pas de deuxième chance, quoi. Et alors, c'est là où c'est pas si mal d'être une fille. C'est-à-dire, je me souviens un checkpoint, justement, en République démocratique du Congo, où il y a un checkpoint comme ça, un type m'arrête, visiblement assez chargé en bière, et me dit, voilà, bon, vous êtes là, vous êtes journaliste, vous êtes occidental, et en général, vous représentez un gros tas de dollars. Et donc, il me dit, je voudrais, pour passer, il faut 1 million de dollars. Et, bon, donc, évidemment, ça n'a aucun sens. Et donc, je le regarde et je me dis, écoutez, je ne les ai pas, et je ne savais pas quoi répondre, et je dis, mais je peux vous offrir un Fanta. Et alors, ça a marché.
Mais c'est pas forcément la phrase, c'est le sourire qui va avec, c'est
voilà,
l'œil.
Voilà, c'est la manière de se comporter, bien sûr. Et donc, effectivement, un homme a plus tendance à faire un rapport de force qu'une femme. Donc là, mon Fanta a marché, mais
donc là, vous pouvez jouer tout,
toujours,
la fragilité, la bêtise, la complicité.
La bêtise, je le fais bien.
Non, vous pouvez le jouer.
Si, je vous assure, Florent, je vous assure, j'ai un vrai talent. Non,
je suis très
gêné. Vous me flattez.
Mettez quelque chose en pub.
Et après le Fanta, il n'a pas demandé 1 million de dollars?
Non.
Ah bon, c'est juste pour savoir.
Non, mais non.
Non, mais cette histoire m'a plu. Donc j'ai envie de dire.
À tout de suite.
Nova.
Plus près de toi.
Quel physique. Il doit faire de la radio. C'est servi.
Il est très très beau ça, qu'est-ce que c'est ?
Kid Francescoli de Marseille.
Ah bon ?
Comme on line à l'instant.
C'est magnifique. Alors Sacha, tu n'as pas cours aujourd'hui, Sacha ?
Oui.
Pourquoi tu n'as pas classe ?
Bah parce que c'est les vacances.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vacances de quoi ?
Bah, c'est les vacances d'hiver.
Mais il y a des vacances à chaque saison.
On peut dire ça. Va.
Mais pourquoi?
J'en sais rien.
Bah alors, ne les fais. Si tu ne sais pas, ne les prends pas. Il faut pas faire des choses quand on ne sait pas, parce qu'après on se fait manipuler.
Les vacances d'hiver, les vacances de printemps, les vacances d'été.
C'est lesquelles tes préférées?
Oh, hiver et printemps, parce qu'il y a aussi les vacances d'avril et c'est là où on ramasse les œufs des fois. Va.
Oui. Et t'as déjà skié ou pas?
Bah oui, j'ai ski cette semaine, une semaine.
Ah bah je ne le savais pas, ne m'engueule pas. Et l'été, tu skis pas, tu skis plutôt vacances d'hiver.
C'est ça.
D'accord, je commence à comprendre un tout petit peu le schéma. Je vois que tu apprends du Raymond Queneau à l'école, c'est très rare. On vous a dit des trucs sur Raymond Queneau ou pas? Il connaissait très bien les maths, tu sais, c'était un spécialiste de mathématiques.
Ah, donc il pourra peut-être m'aider, là.
Il pourra peut-être t'aider, enfin oui. Alors on va t'écouter, ça tiens, on te met ton petit jingle, il est bien le jingle.
Enfant. Oh, Dieu, qui sont mignons ces petits.
Un enfant,
un poème.
Oui, c'est pas mal. Alors, ça s'appelle L'Aventure, par Sacha.
Je dis ?
Oui.
Alors, L'Aventure. Les mâts qui se balancent dans ce grand port de la Manche n'emporteront pas les colliers vers les îles des boucaniers. Jamais, 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 il n'eut l'idée de se glisser à bord du train-mât qui s'élance vers le golfe du Mexique. Il le suit sur la carte, qui bellement se déplace, avalant les longitudes, Virga, Viston ou Tampico. Il a le goût de l'aventure, l'écolé qui se regardait de si beaux bateaux naviguer, sans y mettre le pied. Raymond Queneau.
Yes. C'est beau. Florence, ça vous a rappelé des souvenirs?
Ça m'a rappelé des souvenirs, mais surtout, j'ai beaucoup apprécié, parce que vous ne le voyez pas à la radio, c'est bête, hein, oui. Mais tu le vivais entièrement, c'était formidable, la manière dont tu le récitais, t'étais parti. Tu te souvenais que t'avais un studio de radio autour de toi?
Ouais.
Ah, quand même.
On a l'impression que tu partais en bateau,
ah,
vraiment.
Ah ouais, ouais, que t'étais vraiment dans le bateau. Bah c'est bravo, c'est que c'est réussi.
Ça te donne envie de partir, toi, loin?
Peut-être, sur une croisière, mais je suis déjà allée en Corse.
Bon, et ça
pendant les vacances d'été, alors.
un rêve de voyage ou un rêve d'aventure, ça serait quoi pour toi?
Aller en Australie.
Aller en Australie. Et puis, tu m'as dit, la plus belle aventure humaine, c'est celle d'un père de famille avec ses enfants qui plongent, évidemment, dans la profondeur de ce qu'est l'âme humaine.
Et ils se noient, ils se font déjecter par les requins.
Absolument, c'est ce que tu me disais en antenne. Merci, Sacha. À tout de suite. On reprend. Alors attendez, c'est beaucoup trop riche l'émission. Venez avec moi, Thomas. Venez avec moi. On va écouter un son d'abord, parce qu'on va être avec Juliette Volclair qui va nous parler du son comme arme, le son qui est utilisé par les policiers et les militaires. Mais c'est un livre qui vient de paraître. Mais je voudrais qu'on écoute d'abord un son que nous a rapporté Charlène, c'est ce que des Américains ont envoyé aux Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam.
Pour les effrayer.
Pour les effrayer. Écoutons juste ce son. Tôi đã về với mình đây. Nhưng tôi còn đâu mắng ngân hàng nữa. Tôi đã chết rồi mà con đây ở. Tôi cảm thông. Cảm thông thân nào.
Juliette Volclair, bonjour.
Bonjour.
Le son comme arme, c'était l'objet de votre livre précédent, mais on est dans la continuité avec Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore. On va en parler après le journal de 8h. Mais là, en guise d'introduction, puisqu'on est un peu dans la continuité, ce qu'on vient d'entendre, c'est quoi précisément? C'est quelle langue? C'est du vietnamien?
Oui, c'est du vietnamien. Et c'est une cassette qui s'appelait The Wandering Soul, l'amérante, qui a été faite par les opérations psychologiques, qui était une unité militaire de l'armée états-unienne et qui était spécialisée notamment dans la propagande, dans tous les outils en fait, de manipulation psychologique de l'ennemi. Et ils ont testé à grande échelle pendant la guerre du Vietnam la diffusion de cassettes depuis les hélicoptères notamment pour effrayer les Vietcong. Et là, je ne parle pas vietnamien, mais ayant étudié un peu le truc, ce monsieur, en fait, est un...
C'est un fantôme,
en fait. Voilà, c'est un fantôme, il est mort. Et il est en train d'errer, puisqu'il n'a pas pu être enterré sur sa terre natale, ce qui est une sorte de damnation éternelle. Et du coup, il est en train de dire à ses collègues... arrêtez de combattre, rendez-vous, ça ne sert à rien. Et dans la suite de la cassette, on entend notamment sa fille qui dit « Papa, papa, où es-tu ?» Et puis après, on entend aussi le rugissement du tigre du zoo de Bangkok qui avait été enregistré pour l'occasion, de la musique funéraire bouddhiste.
Donc ils se servent exactement des traditions, des cultures locales.
Voilà. En l'occurrence, parce que c'était au Vietnam. Après, ils ont fait des essais. Et pour eux, le local était très approximatif. Ils ont essayé d'enregistrer la jungle panaméenne pour restituer l'ambiance de la campagne japonaise, par exemple. Et là, c'était un petit peu moins probant.
Oui, c'était plus approximatif. En tout cas, dans ces recherches-là, vous avez découvert une figure qui s'appelle Harold Boris Meyer, qui est très, très étonnante figure. Vous avez enquêté sur lui. C'est l'objet de votre livre, donc Contrôle, qui vient de paraître. Un homme de théâtre, un homme d'industrie et un homme de guerre aussi. Il a travaillé aussi pour la CIA. On va en parler un tout petit peu plus tard.
Juste après le journal de Thierry Paré. Thierry Paré qui met le casque, qui est là, qui bondit comme une sorte de tigre.
Personne s'en aperçoit.
C'est super ce que vous faites.
Attention, on annonce une tempête et de fortes pluies aussi aujourd'hui et demain sur le sud de la France, notamment sur le Languedoc-Roussillon où l'on attend en deux jours l'équivalent de deux mois de pluie. Une vingtaine de personnalités, parmi lesquelles de nombreux élus locaux de Seine-Saint-Denis, de gauche, ont signé un appel ce week-end pour réclamer une enquête parlementaire dans l'affaire Théo. Après Bobigny, samedi, c'est à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, que de violents incidents se sont produits hier soir. La police a procédé à une dizaine d'interpellations. Vers 17h, une cinquantaine de jeunes se sont rassemblés dans le quartier du Val d'Argent Nord. Autour de la dalle, ils répondaient à un appel diffusé sur Facebook, incitant à reproduire les violences de 2005. Il y a eu aussi des incidents du côté de Drancy, en Seine-Saint-Denis. En pleine crise diplomatique entre Mexico et Washington, des milliers de Mexicains ont manifesté contre Donald Trump hier et son projet de construire un mur à la frontière. Le Mexique, on le respecte, monsieur Trump. C'est ce qu'on pouvait lire sur une immense pancarte en tête de cortège. C'est une différence avec la France. La Suisse organise régulièrement des week-ends de référendum. Ce week-end en était un. Les Suisses étaient appelés aux urnes pour entériner ou repousser plusieurs propositions. Ainsi, ils ont par exemple accepté à plus de 60% de simplifier la naturalisation des petits-enfants d'immigrés, renvoyant donc dans les cordes la droite populiste et ses propos anti-musulmans qui n'ont donc pas convaincu. En Espagne, Pablo Iglesias renforce sa mainmise sur Podemos. Le professeur de sciences politiques de 38 ans, favorable à l'alliance avec les écolo-communistes, a été réélu secrétaire général de la formation de gauche par les militants avec plus de 89% des suffrages. Frank-Walter Steinmeier a été élu, lui, 12e président de la République fédérale allemande.
l'ex-ministre social-démocrate des Affaires étrangères, succédera officiellement le 18 mars à Joachim Gauck. L'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon, ça avance hein, assez rapidement. Les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales pourraient remettre au plus tard, à la fin de cette semaine, au parquet national financier, leur rapport de synthèse dans cette enquête ouverte pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. La France va recruter une nouvelle génération d'espions. D'ici à la fin 2019, hein, la DGSE va bénéficier de 600 nouvelles recrues, analystes, linguistes, ingénieurs. De très nombreux profils sont recherchés. Légendaire chanteur de jazz américain, récompensé 7 fois par les Grammy Awards, Al Jarreau est décédé hier à l'âge de 76 ans, chanteur au répertoire éclectique, hein, du jazz à la pop, en passant par la soul, la funk. Il est mort dans un hôpital de Los Angeles quelques jours après avoir annoncé sa retraite pour cause d'épuisement. Puisqu'on parle des Grammy Awards justement, tiens, voici les résultats de la 59e cérémonie qui s'est déroulée cette nuit à Los Angeles. Album de l'année 25 Adele, enregistrement de l'année Hello Adele, chanson de l'année Hello Adele, meilleur album pop vocal 25 Adele, meilleure performance pop solo Hello Adele. Voilà, bon ça c'est fait. Meilleure chanson rock Hello. Après Mais si, meilleure chanson rock après Black Star, c'est de David Bowie. Meilleure performance rock, Black Star, David Bowie. Meilleur album alternatif, Black Star, David Bowie. Tiens, une catégorie qui va intéresser sans doute les auditeurs de Radio Nova, peut-être un peu plus que les autres. Meilleur album rap, Coloring Book, c'est Chance the Rapper. Et qui reçoit aussi le Grammy du meilleur nouvel artiste. Et puis on notera que le meilleur album urbain contemporain revient à Beyoncé avec son album qui s'appelle Lemonade.
Et ça c'est Bowie avec Black Star.
Il y a toujours beaucoup de sport hein, tous les week-ends, encore plus qu'en semaine. En rugby, les Français ont battu les Écossais au Stade de France hier 22-16 dans le cadre du tournoi Destination. En football, Nantes s'est imposé face à Marseille hier soir 3-2 en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Un peu plus tôt, Saint-Etienne s'était imposé 4-0 face à Lorient et Nice avait fait match nul de partout sur le terrain de Rennes. En tennis, l'équipe de France féminine est éliminée de la Fed Cup, sortie par la Suisse. Et puis enfin en biathlon, Martin Fourcade a été sacré champion du monde de poursuite hier en Autriche.
C'était très complet. Florence, il y a des choses que vous avez notées spécialement dans le journal de Thierry Paré?
Oui, j'ai trouvé qu'il a bien dit son poème lui aussi.
Oui.
C'était vraiment réussi.
Oui.
Et sinon...
Par cœur. Hein.
C'est vrai, j'ai vu ça, vous étiez en bateau vous aussi. Hein. Ouais.
Je l'ai joué.
Ah ouais, vous l'avez joué.
Sur le contenu, on est pas...
Non, sur le contenu, je pense que c'était bien.
Moi, je crois qu'il a bien dit. Je crois qu'il était impeccable.
Non,
franchement.
Vous n'avez pas de.
Non, moi, j'ai essayé de dresser l'un contre l'autre.
Vous n'avez pas de commentaire particulier.
Non, c'était bien.
Non, c'est pas très loyal de votre part.
Pas de rien sur Pénélope, tout ça. Bon, très bien. Alors, on a son petit jingle de Tito.
Et maintenant, la météo flamenco de Tito.
C'est absurde de l'avoir enregistré vu que vous êtes là.
Hey.
Tito.
Alors accrochez-vous. Aujourd'hui il pleut au bord de l'eau. Mais par contre à l'intérieur des terres, il fera beau. À Agen entre 10 et 15. À Angers entre 7 et 17. Clermont-Ferrand 8 et 15. Corté 7 et 12. À Laval entre moins 2 et 13. À Melun entre 3 et 12. Montpellier 11 et 14. Vienne 7 et 16. Saint-Étienne 6 et 14. Lailo, lailo, lailo. Lailo, lailo, lailo.
Merci. Ah non, vous mettez un petit truc, regardez, un truc de 3 secondes, regardez, Armel, faites un petit.
D'accord.
Un truc qui
rit.
Et ça, c'est la version enregistrée. Nous sommes de retour. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus. Arrêtez de m'emmerder. Alors, Jack, souvent dans la rue. C'est pas possible. Il y a des pancartes, des trucs, des machins. Jack à Villeurbanne. On retrouve Juliette Volclair juste après.
On n'est pas du tout à Villeurbanne.
Mais je le sais mieux que vous. Je suis de Paris. Je suis à Paris. À Paris, on sait tout. Vous savez bien.
Moi, je suis quai numéro 1. On attend
c'est
le bus. Elles sont deux. Une change de vie. L'autre attend le bus pour Metz depuis 3 heures. C'est pas possible. Depuis 3 heures, vous êtes là.
Ben oui, hein.
On est à Lyon-Pardieu.
Elle veut manger le micro. Non, ne mangez pas le micro.
Qu'est-ce qui se passe? On est à la gare Lyon-Pardieu. Vous êtes avec une dame qui va prendre mon bus.
Bonjour.
Bonjour madame. Où allez-vous?
À Metz.
Vous faites Lyon-Metz?
Non, j'ai fait Italie, Lyon et Metz.
Mais qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi? Racontez-moi.
J'ai des affaires de famille à résoudre.
Alors la famille est où madame?
Elle est ici en France.
Alors vous êtes partie d'Italie, vous vivez en Italie. Vous avez déjà une partie de la famille. Est-ce que vous avez résolu les affaires lyonnaises déjà?
je connais pas.
Non, donc vous allez à Metz, vous transitez. C'est, en fait, Lyon est une zone. Donc la Fabienne, j'essaie de comprendre la situation. Vous êtes parti, on vous étiez en Italie tranquille chez vous, on te dit, on vous appelle, on te dit, viens à Metz, il y a un problème, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors, vous faites ni une ni deux, vous prenez le train pour Lyon.
Non, le bus
pour Lyon. Changement à Lyon, Lyon-Metz. Vous allez arriver quand à Metz?
Ce soir.
Alors ce soir, vous allez être arrivé. Est-ce que vous allez être fêté par votre famille? On va dire, la voilà.
C'est le temps de réaction. On est en train de rigoler par terre. Elle remonte.
Madame, qu'est-ce qui va se passer? C'est une affaire joyeuse ou triste qui vous appelle à Metz?
Ça dépend.
Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous a dit votre famille au téléphone?
Rien du tout.
Vous me dites, madame, bon, reprenons.
Où on est là? Où on est?
Inspecteur, souvent, reprenez l'enquête. Sinon, parce que moi, je suis le gentil policier, mais il y a le commissaire Aubenas qui va arriver. Donc, qu'est-ce qui va se passer à Metz, à votre avis? Vous avez un message à faire passer à votre famille? Ils vont vous dire quelque chose?
Oui, au ciel.
Il y a eu des morts.
Oui.
Bon.
Papa.
Ah, bon, je suis désolé. Et donc, on vous a prévenu et vous allez enterrer votre père, alors?
Oui.
Bon, et alors, qui y a là-bas? Il y a votre maman, il y a des frères et sœurs?
Non, je suis fille unique.
Bon, et vous allez rester un petit peu avec eux, avec votre mère?
Non, elle est au ciel, elle aussi.
Ah bon, mais alors il était tout seul à Metz?
Avec une autre femme.
Avec qui vous vous entendez comment?
Sur le téléphone.
Vous entendez, mais vous vous entendez bien avec elle ou ça va être difficile?
Ça va, ça peut aller.
Bon, et donc vous n'allez peut-être pas rester très longtemps à Metz en fait?
Non.
Non, le minimum.
Il fait froid ici.
Bon, écoutez, je vois que tout ça se passe.
Je vous passe ma copine.
Oui, je vous embrasse, on pense à vous. Oui.
Oui, alors...
C'est la copine, là. Non, c'est déjà...
Posez-moi des questions, je suis à Metz.
Bah, écoutez, je viens déjà d'enterrer quelqu'un, là.
On est mort de rire à l'arrêt de bûche, on est 15 personnes. Et tout le monde est
à l'enterrement, c'est toujours drôle, c'est vrai. Mais
Maintenant, on ne se connaît pas. C'est le déménagement et vous avez 4 valises auprès de vous. Vous changez comme 2 valises. Non, mais on peut dire 4 à la radio. Et vous changez de vie.
Oui.
Quelle était la vie que vous aviez avant?
Justement, je suis étudiante. Et là, vu que je suis en recherche de stage de fin d'études. Donc du coup, à Nantes, c'était pas... Bon, moi, j'ai cherché un peu partout. Et à Nantes, j'étais dans une résidence universitaire.
Oui.
Donc du coup là, vu que quand tu résides dans une université, tu dois signer un contrat pour toute l'année quoi. Et là à Nantes, je pouvais plus vu que je suis en recherche de stage. Donc parce que si je signe un contrat là et que je fais un stage peut-être à Paris, je dois déménager. Donc je suis en train d'aller à Dijon.
D'accord. Donc vous avez pris vos 4 valises de Nantes. Oui. Donc là vous venez de quitter Nantes avec vos valises. Vous arrivez à Dijon. Il y a quelqu'un qui vous attend à Dijon ou pas?
Ah oui, il y a quelqu'un qui m'attend là.
Bon, il y a du boulot là-bas ou pas?
Oui, un petit boulot à faire en attendant que je trouve un stage.
Bon, donc vous êtes contente là, c'est un déménagement, on va de l'avant là.
C'est la première fois que j'entends dans ce sens-là, chercher un boulot. Bonjour madame.
Oui.
Inspecteur Aubenas, comme me présentait.
Oui, inspecteur Aubenas.
C'est la première fois que j'entends dire qu'on cherche un boulot avant d'avoir un stage, parce que d'habitude c'est un peu l'inverse, non?
Non, le problème c'est que c'est depuis janvier que je cherche le stage et voilà, jusque là j'ai pas toujours eu.
Vous faites quoi par exemple? Comme genre de, quel genre de stage vous faites?
Un stage professionnel de fin d'études.
Mais dans quelle étude vous, par exemple?
Gestion, contrôle de gestion, audit.
Et en attendant, vous allez faire un petit boulot, ce qu'on appelle alimentaire, quoi, un petit boulot ou dans la vente ou dans la restauration.
Un petit boulot pour ne pas rester à la maison sans rien faire quoi.
D'accord. Et là, à Dijon, vous avez trouvé quoi comme petit boulot?
Travailler dans comment ça agroalimentaire. Il est secteur agroalimentaire.
Mais dans une usine ou dans la vente? Allô, allô?
Dans la vente.
Et là, vous avez 4 valises. Alors, il y a toute votre vie dans ces 4 valises?
Bon, non, c'est pas 4 valises. En plus, c'est juste 2 valises. Je ne pouvais pas prendre tout parce que là, voilà.
Il y a quoi?
On est sur
beaucoup de vêtements, il y a de la robe, il y a quoi?
Non, c'est juste mes cahiers, mes livres.
Oui, oui.
Voilà. C'est ça le plus important. Voilà.
Vous ouvrirez quand même vos valises devant Jacques Souvent, qui est un spécialiste. Donc...
Non.
Bon,
il y a juste mes livres et mes cahiers.
Voilà. Eh bien, on vous embrasse très fort, on vous souhaite le meilleur à Dijon grâce au réseau Dijonais de Jacques Souvent.
Le bus n'arrive toujours pas, on l'attend.
Oui, mais faites des claquettes, faites des distractions, vous êtes très bon. Oui, vous êtes très bon là-dedans.
Spectacle dans 2 minutes.
Merci, merci beaucoup. Un enterrement dans la joie dans l'Est, un stage dans l'agroalimentaire en Bourgogne. La matinée se passe bien à la gare Lyon-Part-Dieu. Et nous retrouvons Mademoiselle Volclair, Juliette Volclair et Thomas Baumgartner ici.
Oui, là, on va la retrouver dans un instant.
Pourquoi,
oui,
voilà.
Eh bien, parce qu'on va monter dans un bus avec de la pub dessus.
Mais on me contredit tout le temps. Je n'ai jamais vu autant d'amateurisme. Au sens aimé, bien sûr.
7h, 9h, plus près de toi. Nova.
7h, 9h, Edouard Baer.
Ouh, tout ça pour ça?
Reprise en main. Oui, c'est le nouveau jingle de merci à Catherine Lagarde. Alors, reprise en main, Thomas Baumgartner, recontextualisons.
Un livre sort actuellement intitulé Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore. Il est signé Juliette Volclair. Il sort aux éditions La Découverte, coédité par La Rue Musicale, qui est la maison de la Philharmonie de Paris. Donc, du monde pour éditer ce livre, pour une histoire très méconnue, Juliette Volclair, autour de la figure d'un homme qui s'appelait Harry Burismeyer.
Harold.
Ah, je l'ai appelé par son petit nom,
déçu,
c'est ça.
Ouais, je suis déçu.
Et Harold Burismeyer, qui se trouve à l'origine de pas mal de choses autour du son et autour de la manipulation sonore. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est ce que vous dites dans ce titre-là, qui était d'abord un homme de théâtre, en fait.
Oui.
Harold.
Oui, oui. C'est une figure que j'ai découverte dans ma première recherche sur les armes acoustiques et qui m'avait pas mal intriguée. Et on trouve plusieurs bonhommes de ce style-là, enfin des hommes exclusivement, en tout cas dans mes recherches. Et assez intriguant parce qu'effectivement, il avait l'air assez fantasque. Il avait voulu inventer une torpille acoustique qui s'autodétruisait. Donc j'ai voulu creuser un peu.
Un homme vif et non conventionnel, dites-vous.
Oui, ça, on peut le dire, oui. Et effectivement, il a commencé en fait par travailler dans le milieu du théâtre. Et il a développé beaucoup le son électronique au théâtre. Et il était très méprisant vis-à-vis du vieillard, du bruitage mécanique, on va dire.
Là, on est dans les années 30.
Voilà. Années 1930, 1940. Et au cours de ses recherches, lui, il s'est très vite orienté de manière, on va dire, presque naïve sur la volonté de manipuler les foules au moyen du son. Et puis il le disait ouvertement, en fait. C'était marqué dans ses projets, dans ses demandes de bourse, etc. C'est assez plaisant, en fait, de voir les choses énoncées de manière claire, contrairement
à... Il ne s'embarrasse pas de problèmes moraux, on va dire.
Non. Ben, on va dire que pour lui, je pense que le fait de travailler pour une université, de recevoir des subventions de la Rockefeller Foundation, etc., ça moralisait de fait ce qu'il était en train de faire. Donc, il n'avait plus de questions éthiques à se poser, étant donné que c'était validé. Et donc, il a notamment tenté au théâtre de créer des hystéries de masse dans le public en quelques secondes au moyen d'un son perçant assez aigu. Et dans ses rapports, il était très enthousiaste. Au début, il était prudent, on va dire scientifique.
Ouais.
Il disait non, on a induit un sentiment dans le public. Et puis, quelques années plus tard, c'est nous avons suscité une hystérie de masse en 32 secondes.
Mais en même temps, ce qu'il dit à un moment donné, ce Harold Burismeyer, c'est qu'il était persuadé que la science qu'il développait lui-même, qu'il a contribué à inventer, pouvait aider les gens à être plus efficaces et plus heureux. Le son, l'ambiance sonore, le travail sur le son autour de nous pouvait aller dans cette direction-là.
Oui, parce qu'ensuite, ses recherches ont été repérées en dehors du milieu du théâtre, et notamment par l'industrie, par les usines, quoi. Parce qu'à l'époque se développait la musique d'ambiance sur les lieux de travail, notamment. Dans un objectif justement d'améliorer la productivité ouvrière, de réduire l'absentéisme, de faire en sorte que les gens n'arrivent pas en retard le lundi matin, ne partent pas en avance le vendredi soir.
Ne dansent pas non plus sur le lieu de travail,
voilà,
c'est toute la problématique de mettre de la musique sur la chaîne.
Voilà, que tout le monde soit bien discipliné, mais pas trop enthousiaste non plus. Et Burismeyer, en fait, c'est pas lui qui est à l'origine des premières diffusions de musique sur le lieu de travail. En revanche, il a été embauché avec son collègue Cardinel pour rationaliser tout ça, quoi, mettre des chiffres là-dessus de manière extrêmement efficace et claire, qu'ils soient utilisables par les patrons d'usine. Et donc, il a tout quantifié, quoi. Il a établi que si on passait la musique par morceaux de 20 minutes, avec des intervalles de 20 minutes de silence sur telle plage horaire, eh bien, la productivité allait augmenter de temps, etc.
Alors, c'est employé aussi, après, on sait bien, dans les endroits où il faut enlever de l'anxiété, dans les avions, dans les parkings, oui. Les ascenseurs, on enlève certains aigus, on change certaines notes. Est-ce que vous, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on parle toujours de l'image des gens? Il a une bonne image, il faut travailler son image et pas son son. On ne dit pas il devrait travailler son son, il devrait travailler
sa puissance sonore. Parce que je pense que le son a été, et toujours d'ailleurs, mais c'est en train de changer un peu, a été tenu comme parfaitement secondaire pendant très longtemps. Quoi. Le XXe siècle est le siècle de l'image, c'est extrêmement clair. Le XXIe, il y a un designer sonore qui me disait avec beaucoup d'enthousiasme, le XXIe sera le siècle du son. Bon, il était très lyrique et je ne partage pas trop ses conceptions de l'ambiance sonore, mais en l'occurrence, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un développement très fort du son aujourd'hui. Et je pense que c'est important justement d'accompagner ce développement d'une critique, d'une conception critique et historique, de rattacher le son aujourd'hui à une mémoire de ce qui a pu être fait, qui est entièrement méconnue. Quoi. Revisiter le XXe siècle à travers le sonore, oui. Prendre un fil directeur sonore, pour retisser l'histoire, et ça nous fait découvrir des épisodes qui sont complètement passés à la trappe, alors qu'ils sont gigantesques quoi, dans l'histoire du XXe siècle.
Et vous pensez que les conseillers en communication, par exemple des hommes politiques, leur disent de travailler, attention à tes aigus, va dans les graves
Il y a du coaching, oui, je crois qu'il y a du coaching dans la manière de s'exprimer, y compris dans les intonations. D'ailleurs, c'est assez frappant. Hein. Si vous écoutez la radio et vous écoutez l'intonation des hommes politiques et que vous vous déconnectez volontairement un petit peu auparavant du flux constant, vous avez l'impression que c'est toujours le même homme politique qui s'exprime. Quoi. C'est...
Florence Oumna.
Oui, mais justement, vous vous souvenez l'épisode de Macron qui justement...
Quand il s'était énervé, il a crié, on l'avait accusé d'être hystérique parce qu'un de ses congrès...
Il était parti dans les aigus et maintenant il a pris un coach sonore, enfin un ténor, voilà, exactement. Parce que... qui lui apprend à poser la voix, etc. Mais je pense que vous avez raison, certainement le son pris seul, si vous voulez, n'est pas le symbole du siècle dernier, du XXe siècle. Mais en revanche, la com l'est, et d'une certaine manière, c'est du son pur, j'allais dire. La com, c'est vraiment...
On parle de bruit de fond même parfois.
Bah, exactement, je pense que c'est que c'était important, mais c'est vrai qu'on l'isole, on n'a pas l'habitude de l'isoler, j'allais dire.
Non, on prend le son pour acquis, et puis c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a autant de fantasmes autour du sonore. Et justement, que j'essaye de faire la part entre ce qui relève du fantasme et ce qui relève de l'effet réel, parce que on reste toujours dans cette conception que le son va agir de manière complètement inconsciente, incontrôlée, que c'est difficile à analyser, à comprendre. Alors qu'en fait, on peut en fait réussir quand même à comprendre comment les choses se sont organisées, quels sont les effets de tel ou tel son aujourd'hui.
Oui. Mécaniquement, vous voulez dire ?
Oui, mécaniquement et puis psychologiquement, quoi. Parce que le son agit à la fois comme une onde mécanique, quoi. Et puis, le son que j'exprime à la radio ne va pas agir de façon mécanique.
Dites pas ça.
Je dis par exemple à Thomas Bougarter, déshabille-toi, il ne va pas le faire. Je dis, déshabille-toi.
Ah oui,
peut-être tout à coup, il y a.
Ah oui, c'est ce que évidemment. Vous disiez dans... Bravo, merci. Vous voulez que je conclue sur ce...
Oui, concluez là-dessus.
Nuit comme ça, je vais conclure. Non, effectivement, c'est une histoire qui a un écho aujourd'hui dans ce qu'on vit, la question de l'ambiance sonore, la question de la manipulation sonore, qu'on découvre aussi à travers cette histoire, celle de Harold Boris Meyer, homme méconnu, que vous sortez de l'ombre, Juliette Volclair, dans ce livre Contrôle, qui paraît à la découverte, la rue musicale. Merci d'être passé.
Et grâce à la musique de d'Armel, tout à coup, vous n'êtes pas juste un journaliste qui parle à la radio, vous êtes mythique, tout à coup, grâce à ce fond. Et à vous, et à vos talents particuliers.
Ah bon, ouais.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes. Tous les animaux de la ferme sont là. Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baer.
7h, 9h. Plus près de toi.
Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
Oui, alors Florence Oumla, qu'est-ce que c'est une revue de presse en termes journalistiques?
Votre micro est à l'envers.
Oui.
Oui, alors ça déjà, ça commence
J'espérais,
bien. Qu'est-ce que c'est une revue de presse, Florence?
Je sais pas, vous avez vu les journaux peut-être?
Oui, j'ai fait ça ce matin, rapidement.
Et vous avez noté des choses qui vous intéressaient?
J'ai noté, puis j'ai pas mal inventé.
Ah, quand même.
Oui.
Ah, c'était juste ça, c'est de noter des trucs dans les journaux.
Je sais pas.
Je pensais que vous alliez me dire un truc très technique. Il s'agit. Alors le petit jingle de Marie Misset.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour.
Bonjour. Alors oui, c'est vrai que c'est important.
Non, on dit ça. Une fois n'est pas coutume, Pierre Gattaz a une grande tribune où ça, bien dans Libération, pour dézinguer le revenu universel. Pierre Gattaz, patron du MEDEF dans Libé, c'est l'occasion de faire une belle revue de presse sur cette fameuse valeur travail. Dans Libé, donc, Pierre Gattaz dit que non, c'est faux, il n'y aura pas de disparition du travail à cause du numérique. On inventera toujours et toujours plus vite des nouveaux boulots pour remplacer ceux qu'on écrase. Et la fin de la croissance, eh bien, ça n'existe pas non plus. Je tiens à lui accorder au moins ça. C'est vrai que l'humain a un joli savoir-faire en invention de métier. En témoigne l'interview dans les pages télé du Monde de ce week-end de Violette Bellet. Violette Bellet qui plairait peut-être à Ammonia Cal, moitié pingouin, moitié chiffon, moitié humain, parce que Violette exerce le beau métier de psinariste. Elle est moitié psy, moitié scénariste. Là, pour garantir l'épaisseur et la crédibilité psychologique des personnages de série, et on lui doit notamment la série QI, dont on a hâte. C'est l'histoire d'une actrice porno dont la famille et le mec adorent le métier, qui veulent à tout prix qu'elle continue, mais elle veut tout arrêter pour faire quoi ? De la philo. Frigide, elle connaîtra son premier orgasme en comprenant un concept philosophique. Alors, je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la crédibilité du personnage, mais côté indice de persuasion, ça vous donne une idée de ce qu'on est capable de vendre à une chaîne quand on est psinariste. L'importance de la fameuse valeur travail, pour y revenir, pour l'épanouissement d'un individu, c'est aussi visible dans un article du quotidien anglais The Independent, où l'on apprend que Jane Park, la plus jeune gagnante de l'Euromillion au Royaume-Uni, veut faire un procès à la société anglaise qui gère Euromillion, Kaamelott, parce que gagner le pactole à 17 ans a ruiné sa vie. Mauvaise surprise en termes de bonheur à long terme. La fortune acquise du jour au lendemain ne remplit pas ses promesses. Tous ses amis ont des problèmes de thunes. Elle a la terrible impression d'avoir 40 ans. Oui, c'est dur. Et que personne ne la comprend. L'article rappelle qu'une autre grande gagnante de loterie au Royaume-Uni, Callie Rogers, qui avait 16 ans à l'époque, avait elle aussi tenté de se suicider, incapable de faire face au lingot. Dans la revue Feuilleton, on est tristement confirmé dans ce constat terrible qu'a fait Jane Park à 17 ans. Gagner une masse d'argent ne garantit pas le bonheur. Feuilleton publie un reportage mené dans le village le plus chanceux du monde, en Espagne, dans un minuscule village de paysans. Tout le monde se connaissait, tout le monde galérait. Et puis, un jour, ils ont remporté à la loterie nationale le plus gros montant jamais remporté en Espagne. Le village entier a gagné, plus ou moins, selon le nombre de tickets achetés. Après une légère période d'hystérie, célébrée sous des averses de champagne où tout le monde a oublié la valeur travail, le quotidien a fini par se réinsérer. Certains le trouvent soudain très terne, morne. D'autres font face à des conséquences inattendues, comme ce berger qui dit « J'aime les moutons, mais après El Gordo, la loterie, on a changé et opté pour des porcs et je regrette que ce fichu truc soit arrivé. » Pendant que certains regrettent de compter les moutons, le journaliste Michel Paterniti, auteur de l'article, part dans une belle envolée. Il dit « La chance est un dieu, la chance est aveugle, la chance c'est votre mère qui vous parle de l'au-delà et la chance c'est parfois ce qui donne du pouvoir à des trous du cul. Mais même si elle autorise certains luxes alors que d'autres souffrent, elle ne vous change pas. » Elle ne vous rend pas immortel et ne vous rapproche pas de vos anges gardiens. La chance, la fortune sans labeur ne garantit toujours pas le bonheur. C'est la leçon du dernier feuilleton. Eh bien, le travail non plus ne garantit pas le bonheur. C'est ce que vous répondrez les employés japonais qui meurent de surmenage. Ça a un nom au Japon, la mort par surmenage, c'est le karoshi. Le Monde leur consacre un article. Et c'est aussi au Japon que viendra, du Japon que viendra le mot de la fin, avec la célébration de l'auteur japonais de Un homme qui marche, Jiro Taniguchi, dans Libération. Il avait développé l'esthétique du wabi-sabi, issu de la vertu du non-agir et de la pauvreté paisible de l'ermite qui ne fait rien, sinon marcher.
Merci beaucoup Marie Missé. Florence Omna, vous avez écouté cette revue de presse. Malchance d'avoir de la chance, mourir de travailler, un avenir dans lequel peut-être les robots seront remplacés par des êtres humains. Qu'avez-vous tiré de toutes ces informations, Florence ?
Écoutez, prof Edouard, c'est vrai que c'est intéressant. Non, ce qui me frappait, c'est que ces histoires d'argent, on l'a vu récemment sur combien on gagne quand on est, je vous jure, je ne vais pas ouvrir le débat, quand on est attaché parlementaire, combien on gagne quand on est ouvrier, combien. Et j'avais cette discussion-là avec une personne qui gagnait le SMIC, et il me disait, mais cette dame, je ne vais pas la nommer, je ne la nommerai pas, qui gagne 7000 euros par mois, qu'est-ce qu'elle peut en faire ? Elle ne va pas manger des steaks en or. Et je trouve que comment dépenser son argent, qu'est-ce qu'on fait d'argent qu'on n'attendait pas ou qui vous semble exagéré, C'est une chose éternelle. Et je me rappelle aussi d'un village au Maroc qui tout à coup s'était retrouvé, vous savez, ces côtes qui deviennent tout à coup les côtes les plus prisées, touristiques, etc. Et tout le village a vendu ses terres. Et donc c'est un village qui est devenu, comme celui dont on parlait, un village de millionnaires. Donc tout le monde avait... Et alors tout le monde s'est acheté une voiture, donc c'était le village avec le plus de voitures du Maroc, des énormes bagnoles. Et puis comme il fallait, il restait de l'argent, ils ont acheté une deuxième voiture, une troisième. Et donc c'était incroyable. Et depuis, ils revendent les voitures. C'est un village de garagistes maintenant. Je blague. Et c'est vrai que tous disent exactement la même chose. On regrette le temps où on allait s'occuper des oliviers. Et c'est vrai que gagner de l'argent est une chose, le dépenser en est une autre. Et c'est une drôle de chimie, j'allais dire, d'alchimie.
C'est le voisin de Marcel Pagnol qui était devenu Clodo quand il rentrait chez lui en vacances. Il dit « Ah, Marcel Pagnol, Marcel, ça y est, maintenant que tu as écrit toutes tes pièces, c'est bon, tu vas pouvoir te reposer et puis tu as une belle bagnole pour t'asseoir. » Il dit « Non, je retourne à Paris. » »« Tu retournes à Paris ?»« Mais Marcel, tu n'as pas de cul. » Et Pagnol, il dit, toute sa vie, il était hanté par ça. Alors, à propos d'argent, nous sommes à Montpellier avec Hakim de chez Marius et Kamel parce que le prix des fruits et légumes a scandaleusement augmenté. Qu'est-ce qui se passe au marché d'intérêt national de Montpellier. Hakim.
Oui, bonjour.
Pourquoi ça augmente? Pourquoi ça double? Pourquoi ça triple? Qu'est-ce qui se passe avec les fruits et légumes?
Là, il s'est passé qu'il a fait vraiment froid. Du coup, les gens ont voulu manger des soupes, ce qui est normal. Donc, une grosse demande. Et en parallèle, on a eu en Espagne, en Italie et en France de la neige. Il a même neigé au Sahara, je ne sais pas si vous avez vu. Et du coup, il y a eu très peu de production, une grosse demande et la flambée des prix.
Alors, qui dit soupe dit demande aux fruits et légumes, qui dit froid dit soupe dit demande, et qui dit neige au Sahara dit moins d'offres.
Voilà, c'est ça.
Mais il y a quoi comme plantation au Sahara? Ne me prenez pas pour un con, Hakim.
Non, mais nous, on a vendu des courgettes à 5 euros, ça s'est retrouvé à 9 euros peut-être. Peut-être 8 ou 9 euros en rayon de magasin, c'est incroyable. De la courgette au même prix que de la viande. C'est vrai qu'on a eu un peu de mal à argumenter auprès du client, mais après.
Donc les gens gueulent.
Ouais, ils gueulent beaucoup.
Quelles sont les valeurs sûres? Qu'est-ce qui n'a pas bougé là? Qu'est-ce qu'on peut manger cet hiver qui n'a pas augmenté?
Là, ça rebaisse un petit peu. Là, il recommence à faire doux. Du coup, on a la reproduction qui redémarre. Du coup, là, ça va rebaisser. Mais c'est vrai que courgettes, poireaux, tout ça, faut oublier pour l'instant.
Alors, le fruit et légumes, petit budget que vous nous conseillez, là?
Les agrumes, il faut continuer les oranges, les produits de saison. Oranges, chou-fleur, on a le chou-fleur, manger du chou-fleur. Des pommes de terre et des carottes.
Merci, pommes de terre, carottes, chou-fleur, agrumes, oui, Atmen.
On a une petite chanson qui tourne pour promis. Ah, qu'ils ont joli les fruits de Montpellier. Que ça soit joli les fruits de Montpellier.
Atmen,
oui.
Qui vous a commandé cette chanson?
Moi, comme ça, c'était une envie.
Mais une envie de vous?
De vous et de moi-même. J'adore Montpellier, j'adore les fruits, le mélange des deux.
Vous rendez compte que c'est une proposition qui est forte, qui est puissante, qui dérange?
Moi, je sais, je dérange. Ouais.
Vous n'avez pas peur des tabous, des interdits? Vous n'avez pas peur de la morale et de la bien-pensance?
Sors de la maison, tu déranges, alors je suis venu chez vous, dérange aussi. J'ai peur de déranger partout.
Mais peut-être que vous dites la vérité dans un pays qui n'est pas prêt à l'entendre.
Mais qui n'est pas prêt.
Bien sûr. Voilà. Tout de suite, le journal de Thierry
Paret.
Avec 7 minutes de retard, on atteint des sommets, là.
Mais c'est justement, on parlait de Montpellier. Attention, l'annonce des tempêtes, enfin une tempête et de fortes pluies aujourd'hui et demain sur le sud de la France et notamment dans le Languedoc-Roussillon où l'on attend en deux jours l'équivalent de deux mois de pluie. Une vingtaine de personnalités parmi lesquelles de nombreux élus locaux de Seine-Saint-Denis ont signé un appel ce week-end pour réclamer une enquête parlementaire dans l'affaire Théo. Après Bobigny, samedi, c'est à Argenteuil dans le Val d'Oise que de violents incidents se sont produits hier soir. La police a procédé à une dizaine d'interpellations. Après deux grèves en deux mois, les 60 000 assistants et assistantes en école maternelle ou ATSEM, si vous préférez, devraient finalement voir une partie de leur requête satisfaite par le gouvernement aujourd'hui. Ils et elles pourraient par exemple bénéficier du droit de reclassement, une sorte de reconnaissance de la pénibilité de leur travail. En revanche, il n'est pas prévu de hausse de leur salaire. La Corée du Nord affirme avoir testé avec succès un nouveau missile balistique. L'engin aurait parcouru environ 500 km avant de tomber en mer du Japon. En pleine crise diplomatique entre Mexico et Washington, Washington, des milliers de Mexicains ont manifesté contre Donald Trump hier et son projet de construire un mur à la frontière. Le Mexique, on le respecte, Monsieur Trump. C'est ce qu'on pouvait lire sur une immense pancarte en tête de cortège.
Alors, pas en français. Ne faites pas croire que la pancarte est écrite en français.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'était pas écrit en français.
Si ça aurait été joli, vous l'auriez dit en espagnol. Tout à coup, le journal devenait...
J'ai déjà du mal en anglais, en espagnol, c'était... Les Suisses étaient appelés aux urnes ce week-end pour entériner ou repousser plusieurs propositions par référendum. Ainsi, ils ont par exemple accepté à plus de 60% de simplifier la naturalisation des petits-enfants d'immigrés. En Espagne, Pablo Iglesias a été réélu secrétaire général de Podemos. Le professeur de sciences politiques de 38 ans, favorable à l'alliance avec les écolo-communistes, a été réélu avec plus de 89% des suffrages. Frank-Walter Steinmeier a été, lui, élu 12e président de la République fédérale allemande. Il entrera officiellement en fonction le 18 mars. L'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon avance rapidement. Les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales pourraient remettre au plus tard en fin de semaine au parquet national financier leur rapport de synthèse dans cette enquête ouverte pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Je ne comptais pas parler de gros sous dans ce journal, mais comme Florence Omna a ouvert le débat de façon absolument pas fortuite. La France va recruter une nouvelle génération d'espions d'ici la fin 2019. La DGSE va bénéficier de 600 nouvelles recrues, analystes, linguistes, ingénieurs notamment.
Légendaires. C'est si rare que ça et les autres sont très très vieux. C'est pas tout
je ne sais pas, mais il n'y a pas souvent autant de recrues d'un coup. 600, c'est beaucoup quand même.
J'aime l'idée qu'ils ont tous 70 ans qu'il faudrait embaucher des types qui soient sur Internet. Le problème de la génération précédente, c'est qu'ils n'étaient pas du tout, ils n'avaient pas Internet.
Légendaire chanteur américain de jazz, récompensé 7 fois par les Grammy Awards, Al Jarreau est décédé hier à l'âge de 76 ans. Chanteur au répertoire éclectique, du jazz à la pop en passant par la soul, le funk. Il est mort dans un hôpital à Los Angeles quelques jours après avoir annoncé sa retraite pour cause d'épuisement. Les Grammy Awards justement, 59e cérémonie cette nuit à Los Angeles. Album de l'année 25, Adèle. Enregistrement de l'année Hello Adèle. Chanson de l'année Hello Adèle. Meilleur album de pop vocal 25, Adèle. Meilleure performance pop solo Hello Adèle.
C'est incroyable parce que Armel est... maintenant on met, quand on parle d'un truc, vous le mettez derrière.
Il est au taquet.
Je sens que ça vous impressionne.
Je trouve ça très produit cette émission. Je suis très, très...
Meilleur... C'est même qu'on bosse dessus.
Meilleure chanson rock Black Star Bowie. Meilleure performance rock Black Star Bowie. Meilleur album alternatif Black Star Bowie. Meilleur album rap, et ça parlera peut-être un peu plus aux auditeurs de Nova, quoique. Coloring Book de Chance the Rapper. Meilleur album, meilleur nouvel artiste, pareil, Chance the Rapper. Meilleur album urbain contemporain Beyoncé avec Lemonade. Meilleur clip vidéo aussi pour Beyoncé, c'est le morceau Formation. Et puis meilleur album électro Skin de Flume. Et si aussi meilleure performance pop par un duo ou groupe, bon. Stressed Out 21 Pilots. Allez, voilà, on termine là.
Merci Thierry, on m'a donné un petit papier en me disant que c'était la journée mondiale de la radio organisée par l'UNESCO. Je ne sais pas quoi en faire. Christophe Méné, à votre avis, ça va consister en quoi cette journée mondiale de la radio?
Je n'en ai aucune idée.
Brodez là-dessus.
Alors la journée mondiale de la radio, c'est très simple. Les gens doivent écouter la radio toute la journée, sur un minimum de 3 heures.
Je pense qu'il faut tous aller se faire une radio des poumons. Je pense que vous avez tout à fait un malentendu. Je vais
vous dire franchement.
La police des jeux de mots vient de débarquer.
Bonjour, bonsoir, police des jeux de mots. Alors j'étais sur
7h, 9h, Edouard Baer.
Ça me rappelle rien.
Alors, Florence Soumna, est-ce que vous connaissez Dominique Reynier?
Ça tombe sur moi. Ben, je le connais de nom, oui. Puis on s'est vu en boîte, non, l'autre jour?
Oui, c'est ça. C'est ça, hein?
Vous décrédibilisez totalement toute cette émission, qui est une émission qui est basée sur les faits, sur le sérieux, sur la construction d'un monde meilleur à partir de comportements humains et moraux absolument irréprochables. Bonjour Dominique Reynier.
Bonjour Edouard Baer.
Dominique Reynier, qu'est-ce que vous avez noté dans cette semaine politique? Alors déjà, est-ce que c'est, on va avoir la fin de l'affaire Fillon, d'après vous, cette semaine, ou pas? Est-ce qu'on va passer à autre chose, ou est-ce qu'il y a d'autres faits vont l'accabler?
Très, très honnêtement, je ne sais pas. Il y a un aspect technique qui tient aux procédures. Je ne suis pas compétent là-dessus, qui déroule ces conséquences. Ce sont des sujets qui sont même assez discutés par les juristes eux-mêmes. On a vu des débats là-dessus toute la semaine. Donc c'est évidemment le point clé de la situation de François Fillon à ce jour.
Alors sur Fillon, donc on est sur un aspect... Je vous dis quelques noms comme ça pour voir où on en est un peu de tout le monde. Fillon, donc c'est pour le moment, on est juste sur l'aspect juridique. On n'est pas encore dans le retour, dans la campagne, avec programme contre programme pour le moment.
Non, c'est cet aspect-là qui est suspendu au-dessus de sa tête, avec un effritement. Alors, désolé de parler des sondages, parce que ce n'est pas toujours passionnant, mais enfin, là on est devant une élection quand même. Un effritement des intentions de vote le concernant, mais avec une certaine résistance, c'est-à-dire autour de 18% d'intention de vote. Je le dis parce que c'est un des aspects de la caractéristique du moment dans lequel nous sommes. Évidemment, sans précédent, si on a des souvenirs de campagne présidentielle ancienne, ça ne s'est jamais vu, où on sait qui sera au second tour. On pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen sera au second tour. Et on ne sait pas qui sera face à elle. Il y a réellement au moins trois personnes qui peuvent se retrouver face à elle, si on considère les sondages. Et ce que nous savons de l'incertitude des sondages, c'est un outil imparfait, utile mais imparfait, nous amène à considérer qu'à ce jour, peuvent être au second tour encore François Fillon, Emmanuel Macron et même Benoît Hamon.
Alors, Emmanuel Macron, là j'ai lu un article qui disait que c'était vraiment le candidat des médias, que ça excitait tout le monde, mais que ça n'était pas autre chose. Qu'est-ce que vous, on en est où de la candidature Macron cette semaine ?
Je pense que cette idée que c'est le candidat des médias tient au fait, au moins, que c'est quelqu'un qui n'a jamais été candidat d'une part, et d'autre part, dans le mouvement n'existe pas vraiment. Enfin, En Marche, c'est une espèce d'association de bonne volonté via le numérique pour aller vite. Donc c'est un candidat qui ne s'est jamais présenté, un parti qui n'a jamais présenté de candidat. Donc cette espèce d'existence un peu hors sol fait qu'il doit beaucoup, son oxygène, c'est le monde médiatique, par votre conséquence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des résultats électoraux antérieurs, il n'y a pas des militants partout. Et donc, objectivement, c'est une candidature qui surgit. Mais c'est un peu aussi un des traits de notre époque et du mouvement démocratique aujourd'hui que de voir surgir des candidatures qui n'étaient pas attendues dans des domaines très différents. Je ne veux pas tout mélanger, bien sûr, mais on sait que pour Trump, ça a été une sacrée surprise et on pourrait comme ça multiplier les exemples dans le monde démocratique.
J'ai entendu le mot christique qui a été évoqué ce week-end sur la candidature Macron.
Lui-même. Cultive en tout cas cette situation ambivalente. Hein. Il parle de mystique lui-même. Et puis, il a des postures, des envolées et même une rhétorique qui est souvent un peu étonnante ou détonnante par rapport à ses concurrents. Et puis c'est aussi sans doute une époque où on doit ressentir, quand on est candidat, j'imagine, on doit ressentir aujourd'hui à l'élection présidentielle ici, une forme de désarroi chez les interlocuteurs et même une demande peut-être d'horizon, de sens, de guide. C'est un peu la fonction qui veut ça, hein. C'est une élection bizarre. Moi je le dis au passage, hein, je trouve que c'est une élection pas raisonnable du tout. Hein.
Alors, c'est-à-dire raisonnable.
C'est pas une élection raisonnable. On met pas comme ça tout un peuple en train de se demander qui il va choisir pour le guider dans un moment où, avec autant d'incertitudes, de passions négatives, de bouillonnement. C'est pas raisonnable du tout. Je suis très minoritaire.
Et ça va réexister, les campagnes raisonnables ? Vous avez l'impression que maintenant tout est hystérisé.
Un régime parlementaire, malgré tout, enfin je suis très minoritaire, hein. Un régime parlementaire, j'en ai pris l'habitude, nous permet quand même de refroidir beaucoup. On va voter pour des députés, puis se mettre d'accord pour avoir un Premier ministre, puis ils le changent quand ça va plus. Enfin, c'est quand même le niveau de passion là, et de fantasme est complètement délirant. Ça ne peut déboucher que sur une immense déception. On peut pas charger autant.
Il y a une proposition de la droite de décaler un petit peu l'élection en octobre. Il paraît, j'ai entendu dire qu'ils essayaient peut-être de faire un truc que les affaires se tassent et qu'ils reportent ça en octobre.
Alors si c'est pour les affaires se tassent, octobre 2022 peut-être. Bon.
Mais l'hystérie, vous dites que c'est pas raisonnable, donc c'est trop passionné. C'est hystérique, vous avez l'impression, qu'est-ce qui crée ça ? C'est les partis eux-mêmes ? Sont les médias ou c'est une demande maintenant du public qui veut que ça...
C'est la machinerie dans son ensemble. C'est-à-dire que la formule fameuse qui est souvent évoquée pour l'élection présidentielle, un homme à la rencontre d'un peuple. On dit souvent un homme d'ailleurs, il se trouve que c'est une femme qui se profile au second tour, mais... Un homme à la rencontre d'un peuple, c'est une formule en elle-même complètement disproportionnée et dingo. Enfin, c'est dingo. Que voulez-vous qu'un homme fasse ou une femme, qu'une personne fasse pour nos vies ? Enfin, c'est nous collectivement qui pouvons faire quelque chose. C'est évident, ça. Et si hier on pouvait en douter, aujourd'hui on en est absolument sûr. Tout est dans la coproduction, sans être même fétichiste ni néophile, hein, mais tout est dans l'horizontalité, la production collective, enfin... On le voit bien. Et on va demander à quelqu'un de tracer le chemin, de nous conduire par la main, nous, les 46 millions d'électeurs. Enfin, ça ne ressemble à rien.
Comment on peut arriver à la fin de cet enfantillage qui consiste à chercher l'homme providentiel qui n'existe pas ?
Alors ça, c'est... Moi, ma conviction, c'est que l'histoire fabrique toujours les solutions aux contradictions que les hommes n'arrivent pas à dépasser. On est en train d'aller vers une élection de crise. Ce serait, moi, je dirais aujourd'hui, la... La thèse que je retiens, en tout cas l'hypothèse que je retiens à ce jour, on va avoir une élection qui sera peut-être sacrément compliqué et qui va nous amener à réfléchir collectivement.
Florence, vous la suivez, l'élection, à quel niveau vous suivez ça? Vous suivez les candidats, vous suivez les électeurs, vous demandez, quand vous baladez, vous demandez aux gens comment ils vivent ça?
Oui, je fais un peu tout ça. Je suis très peu les candidats et l'appareillage politique, j'allais dire, parce que c'est pas mon domaine. Ça m'intéresse beaucoup moins, en tout cas, que les gens qui votent ou ne votent pas, puisque quand même, en France, 50% des gens ne votent pas.
Beaucoup moins, ou à la présidentielle, c'est plutôt 20% qui votent pas à la présidentielle. Hein. Mais vous avez raison, pour les régionales, alors les élections européennes, c'est dramatique, mais pour les élections régionales, c'est à peu près 40-50%.
Et donc, du coup, cette masse d'électeurs qui se rajoute à la présidentielle est celle qui crée ce sentiment de on ne sait pas ce qui va arriver, puisque c'est des gens dont on n'a pas suivi le parcours de votants, j'allais dire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la réponse, quand vous demandez aux gens ce qu'ils votent, La réponse systématique, c'est aujourd'hui je vote, alors suis Macron, peu importe qui, Fillon, Le Pen, peu importe, mais c'est aujourd'hui. Mais ça sous-entend demain, je ne sais pas. Et donc il y a cette espèce d'incertitude sur ce qu'on pense soi-même. Et c'est ça que je trouve très étonnant. Auparavant, on avait, en tout cas, une partie des gens vous disaient, moi je suis sûr de voter à gauche, à droite, à l'extrême droite, ou peu importe. Et là, c'est vraiment. Les gens se regardent dans la glace, mais c'est vrai, au fond, qu'est-ce que je vote?
Vous avez cette impression, Dominique, que c'est plus fluctuant qu'avant?
Ah, oui, c'est clairement fluide, absolument, oui. Et avec cette fois-ci, moi je suis heureux de le dire, Edouard Baird ici, parce que vraiment c'est important, avec cette fois-ci, sans blaguer, sans se pousser du col, une élection très particulière dans un pays, la France, qui est le seul dans le monde démocratique à mettre à ce point en suspension tous les pouvoirs. Nous sommes les seuls, aux États-Unis, je vous le rappelle, malgré le résultat, c'est un scrutin indirect. Et nous sommes en zone euro, c'est-à-dire que si les élections se passent mal en France, elles ne se passeront pas bien en Allemagne. Et ce qu'a dit Schäuble ce week-end m'a impressionné. Il a dit, si Marine Le Pen est élue présidente, l'existence de l'euro et de l'Europe sera interrogée. C'est-à-dire que c'est possiblement un événement mondial qui ressortira de notre incertitude collective sur l'élection présidentielle. Et évidemment, on n'en prend pas la mesure, parce que l'événement n'étant pas encore dans nos vies, nous n'en faisons pas encore l'expérience, et il faut un effort intellectuel, mental, pour essayer de se représenter les conséquences. Mais nous sommes devant une situation vraiment historique, sans se tromper sur les mots, et possiblement, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences planétaires.
Merci Dominique Régnier.
7h-9h, plus près de toi.
Nova.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
S'il pouvait s'embrasser lui-même, il le ferait.
Elle est bizarre, la pub, aujourd'hui. Florence, merci d'avoir passé la matinée. Qu'est-ce que vous
la
faites?
La matinée, il ne faut pas exagérer, quand même.
Non, mais écoutez, d'avoir passé suite, une heure et demie avec nous, Florence Soumna, qu'est-ce que vous faites en ce moment?
En général?
Oui, mais professionnellement?
Je suis journaliste.
Mais vous êtes sur des choses dont on peut parler ou pas?
Je travaille sur les élections, comme tout le monde, j'allais dire. Et oui, je suis en train de finir une enquête sur une peintre autrichienne.
Et qui a un rapport avec les élections?
Aucun.
D'accord, donc c'est...
On peut faire plusieurs choses.
D'accord, c'est une deuxième... Et pourquoi vous êtes intéressé à cette peintre autrichienne?
Ah, c'est une histoire extraordinaire. C'est la première Rome, puisque le Rome est le terme officiel pour dire tzigane, la première Rome à avoir parlé en Autriche de la déportation des tziganes en camp de concentration.
À partir de quelles années elle en a parlé?
Très tard. Et toute l'histoire est là. C'est-à-dire qu'en Autriche, aucun tzigane n'avait évoqué sa détention dans les camps de concentration, la déportation, les persécutions, avant le 88.
Jusqu'à 88, on ne savait rien de la déportation des tziganes.
On savait que ça avait existé. Oui. On le savait bizarrement par les documents des nazis.
Et pas de témoignages.
Mais aucun par les victimes rescapées. Et c'est la première à le faire.
Et donc, quand est-ce qu'on va lire cette enquête?
Vous allez lire dans M,
oui.
aucune allusion. On va lire dans M, le magazine du Monde, début mars.
D'accord. Bon, eh ben on ira voir avec plaisir. Atmen, vous êtes dans le live, oui, là, vous êtes sous la verrière.
Sous la verrière avec plein de gens. Ouais, vous
je
êtes là
ou pas?
Je ne peux
pas y aller parce que je suis malade, j'ai la voix...
Il y a du monde.
J'ai la gorge très prise, les médecins ne me prennent plus.
Vous avez la voix prise, vous avez
oui.
le nez
alors
pris.
Racontez-nous un petit peu, on a Gabriel Garçon de Montano, Rudy est là, bah, tout le monde est là, alors. Tout le poste, je comprends pas ce qui se passe.
Il y a plein de gens, mais il se passe qu'il y a une vraie histoire d'amour entre Radio Nova et Gabriel Garçon de Montano, et qui, une histoire d'amour qui n'est pas récente, elle date de quelques années, de son précédent et premier album, bien avant que le monde entier ne le découvre grâce, ou plutôt à cause, d'un de ses morceaux samplés par l'un des mastodontes du rap mondial. Alors, épris comme nous l'étions, l'inquiétude, le manque commençait à pointer le bout de son nez, alors que nous étions sans nouvelles de Gabriel depuis 2 ans. Et puis il est réapparu, là, sans nous prévenir, avec un deuxième album qui s'intitule Jardin, qui procure autant de plaisir à nos oreilles que le précédent. La musique de Gabriel est toujours aussi suave, langoureuse, complexe, mais patiente. Une musique qui fait du bien, qui réconforte, du funk d'aujourd'hui. Et puis s'il a choisi comme titre d'album Jardin, c'est en hommage aux illuminations de Rimbaud. Et comme il le dit, pour créer un espace dans lequel les gens pourraient se sentir bien, heureux, apaisés. Et comme un symbole, nos retrouvailles se font ce matin dans ce simili jardin qu'est la verrière de Nova, avec plein de gens qui sont venus le voir. Gabriel, welcome back. Re-bienvenue à toi, puisque tu parles aussi français.
Merci beaucoup.
Hola, ¿qué tal, Gabriel? Je vous rejoins dans le studio. Qu'est-ce que vous faisiez pendant 2 ans, Gabriel? Pourquoi cette disparition?
N'importe quoi.
Eh bien, continuez à faire.
Merci beaucoup.
C'est bien. Et je viens vous rejoindre. On écoute Gabriel Garzón de Montano en live ici, dans le studio sous la verrière Nova.
Si, señor.
Hola!
Il va nous interpréter un morceau de son nouvel album. Le morceau s'appelle Crawl. L'album, c'est Jardin. Il vient de sortir sur le label Stone Throw.
Merci Gabriel Garzón de Montano ici, de la verrière Nova. Bonne journée à tous. Vive les Trente Glorieuses. On vous embrasse.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.